Que Dieu vous bénisse. Vous allez entendre le message « Le seul lieu d'adoration pourvu par Dieu », prêché le 28 novembre 1965 par notre précieux frère et prophète William Marion Branham. Bon matin, je suis heureux d'être ici ce matin. Et nous sommes contents, nous nous réjouissons de cette grande communion autour de ces vieux chants de foi. Nous aimons cela, n'est-ce pas? Le cœur Amen, c'est ce qu'il est. L'Amen, vous voyez, c'est lui qui a le dernier mot. J'étais assis là-bas à parler à mon vieil ami, Frère Brown, pendant les chants. Et il disait, « Frère Branham, je n'avais jamais compris jusqu'à hier de quoi vous parliez. » Il a dit, « Si les gens pouvaient seulement entrer dans ce dont vous parlez, il a dit, tous les obstacles disparaîtraient. » C'est exactement ça. C'est vrai. C'est exactement ça. Si vous pouviez simplement le saisir, l'attraper, vous voyez, parlant à mon petit ami Ernie Friendler, je pense que certains d'entre vous de l'extérieur qui nous sont rayés se rappelleront d'Ernie, comment il a été converti, comment il a été conduit au Seigneur. Il ne parle pas bien l'anglais, mais j'aimerais qu'il vienne dire un mot. Il mélange ses « nous » et ses « on ». Il me disait, il me demandait si je me souviens de l'époque à Shawano où il vit. Un homme est tombé mort là, dans la réunion. Il s'est écroulé dans son siège, mort, un luthérien. Nous avons demandé à tout le monde de rester tranquille. Nous avons prononcé la parole du Seigneur et il est revenu à la vie. Il est venu de cette autre façon. Ils n'ont jamais oublié ça et ils veulent que nous retournions. Et j'ai cru comprendre qu'en France, ce matin, il y a plus de 2000 Français qui jeûnent plusieurs jours pour que nous venions apporter le message en France, en français. Toute la nation protestante, la partie protestante de la nation de France. Et nous sommes donc... ça commence tout juste à fleurir maintenant. Ça commence, la balle se retire pour que le blé puisse être découvert maintenant. Voyez, alors restez respectueux, continuez à prier. Voyez, rappelez-vous, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Maintenant, je devenais plutôt vieux et j'ai pensé, y aura-t-il un autre réveil? En verrai-je une autre fois? Et rappelez-vous, de l'Ouest viendra un cavalier blanc. Nous chevaucherons ce sentier à nouveau. C'est vrai. Dès que nous sommes presque prêts, c'est une promesse, vous voyez. Maintenant, je veux dire à Frère Léo, je parlais de Frère Wood hier soir, de son frère qui était ici. Frère Léo, si toi et le petit groupe qui nous est relié par les ondes ce matin, Sœur Mercier, ton père est ici. Je l'ai vu hier soir, il est quelque part dans le bâtiment. Il a l'air bien et en santé. Le matin où il a été guéri au tabernacle, il y avait deux cas de cancer avancé, vraiment en train de mourir, et tous les deux ont été guéris. Et son père, un homme âgé victime d'une crise cardiaque, s'en est sorti pour la gloire de Dieu. Il est dans la réunion ici quelque part. Je ne peux pas le voir parmi la foule maintenant, mais il était ici hier soir. Salutations à vous tous à travers le pays, ici dans cet endroit merveilleux du Life Tabernacle, ici à Shreveport, avec toute une foule entassée pour l'école du dimanche. Vous savez, si je vivais à Shreveport ne disant rien contre personne, ce serait l'endroit où je viendrais à l'église, ici au Life Tabernacle. Ceci n'est pas une dénomination. Le Life Tabernacle est aujourd'hui un tabernacle interdénominationnel. Ils sont sortis de la dénomination parce qu'ils m'ont accepté, ainsi que ce message que je prêche. Frère Jack Moore, mon frère et ami, il est sorti de la dénomination parce qu'il s'est associé à moi. Et donc, je pense qu'il mérite la confiance, c'est vrai. Que Dieu le bénisse. Levez ses mains en prière et croyez avec lui. Et maintenant, Sœur Moore, je ne la vois nulle part. Derrière ici, elle avait l'air d'une petite fille assise là-bas ce matin avec ce bel habillement tout neuf qui ressemblait à une tenue de Pâques. Et ça ressemblait à Frère Jack, ne la reconnaissait même pas lui-même. Maintenant, Sœur Moore, Anna-Jeanne et Don nous manquent certainement et tous ceux-là. Je suis heureux de revoir Frère Nolan, il était l'un des associés ici. Et Frère Ernie, je lui ai demandé hier soir d'aller chanter ce « Amen ». Je l'ai sur un disque, je l'ai usé à force de l'écouter. « Amen », je pense qu'il a une voix pour ça. Elle bat n'importe quel d'entre eux. Et la petite Judy, et je l'ai remarqué, les deux, ils ont l'air d'être frères et sœurs, n'est-ce pas? Ils sont mari et femme. Regardez chacun d'eux, voyez pourquoi ils se ressemblent tant. Voyez, ils font vraiment un charmant petit couple. Vous savez, c'est Frère Palmer qui vient juste de monter les escaliers dorés. C'est sa fille et son beau-fils. Elle est certainement une contribution à sa bonne façon d'enseigner un enfant. Et il y en a d'autres aussi, des ministres mariés, et ceux-ci sont des évangélistes dans leur champ de travail, et d'autres. Or, c'est simplement grand. Je n'ai pas vu Sœur Palmer, vraiment, je ne sais pas si je la reconnaîtrais, si je la voyais ou pas. Elle est peut-être quelque part, bien sûr, dans la réunion, au fond, en arrière. Que Dieu vous bénisse, Sœur Palmer. Mon cœur tremble chaque fois que j'y pense. Frère Palmer venait de gravir les marches depuis quelques minutes, quand j'ai reçu le message qu'il était parti. Je ne pouvais tout simplement pas le croire. Billy m'a appelé et quelqu'un avait pu rejoindre et il savait. Nous étions de si bons amis. Et d'apprendre qu'il était parti, c'était vraiment troublant. Mais nous devons tous partir. Peu importe qui nous sommes, nous devons partir un par un. Mais il n'y a qu'une seule chose. Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ecclésiaste 12. Maintenant, je n'ai pas beaucoup de temps pour cette leçon d'école du dimanche et je suis enroué. Dites, frère Perry Green a fait une chose noble. Il m'a entendu dire hier soir, j'aurais aimé avoir mon petit postiche pour me protéger. Il a appelé là-bas et a essayé de faire en sorte que quelqu'un l'amène par avion pour moi. J'ai dit, c'est trop tard, je suis déjà enroué. J'ai essayé pendant des années de trouver un moyen, puis quand j'ai eu ça, ça l'a guéri. Mais je l'ai oublié cette fois, donc je suis un peu enroué. Ainsi, si vous pouvez bien me supporter dans mon parler. Maintenant, combien aiment l'école du dimanche? Oh là là, c'est vrai. C'est une bonne chose d'y envoyer vos enfants. Non, permettez-moi de corriger cela. Une bonne chose d'y amener vos enfants. C'est vrai, pour amener vos enfants, vous venez aussi. Combien connaissent l'origine de notre école du dimanche? Quelle en était l'origine? L'Angleterre. Comment appelait-on cela en premier? École en haillon. C'est juste, c'était appelé l'école en haillon. J'ai oublié le nom de l'homme maintenant qu'il a établi. Quel était son nom? C'est vrai, c'est exact. Ils sortaient, les petits garçons, de la rue. Ils étaient en haillon et ils n'avaient pas d'endroit où aller, où ils étaient très méchants. Il les a amenés là et a commencé à leur donner des leçons sur la Bible. Et c'est devenu l'un des plus grands ordres de l'Église, presque aujourd'hui, l'école du dimanche. C'est bon d'y aller. Assurez-vous de venir, amenez vos enfants. Je pense que le tabernacle ici a des enseignants, des salles équipées selon les heures, et ainsi de suite. Et vous, nouveaux convertis qui venez juste de connaître Christ, suivez droitement le message. Venez ici au Life Tabernacle et ils vous feront du bien. Maintenant, ce soir, nous allons avoir une ligne de prière à l'ancienne. Nous allons prier pour les malades comme avant, avec Frère Jack et Frère Brown. Je me souviens avoir vu Frère Brown essayer de distribuer ses cartes de prière et comment lui, étant lui-même un ministre, et à cette époque, dans une organisation que nous, il faisait pression sur lui, vous savez, je suis votre frère et ces choses, vous savez, tu dois me faire monter là-haut. Oh, il avait vraiment des moments difficiles, mais il est resté aussi fidèle que possible. Frère Brown est un homme bien et aussi nous l'aimons. Et comme je nous vois tous, nous trois, en train d'avancer en âge, la fin, ce sera une chose très triste si nous n'avons pas placé en nous cette grande chose, ce que nous savons être la vérité. Nous nous préparons à retourner un séjour pour retourner à notre jeune virilité, pour ne jamais nos corps transformés, rendus semblables aux siens. Quand ce tabernacle terrestre où nous habitons sera dissous, il y en aura déjà un autre qui nous attend. Et la partie reconnaissante de cela, cher ami, c'est que le cher Seigneur Jésus, vous qui avez confiance que je vous dis la vérité, le cher Seigneur Jésus, un matin, vers 8 heures, m'a laissé voir ce pays. Maintenant, ce n'était pas une vision, mais je ne veux pas dire ça. Quoi que ce fût, c'était aussi réel que comme je vous parle ici. Maintenant, j'ai vu les visages de ces gens et je pouvais les reconnaître. Ils étaient redevenus jeunes. Ils étaient tout aussi réels que je leur tenais les mains et ces choses tout aussi réelles. Et ça m'a aidé parce que j'avais toujours pensé que quand une personne mourait, son âme seule s'en allait. Mais alors, quand il m'a cité cela, que si ce tabernacle terrestre où nous habitons et nous en avons déjà un autre, voyez, et nous devons tous en avoir trois pour avoir une perfection, vous voyez. Il y a un corps ici, alors ce corps là-bas qui est le corps céleste, et ensuite le corps glorifié dans la résurrection. Vous voyez, cela le rend complet. Vous voyez, c'est donc ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un esprit, ce sont des hommes et des femmes comme vous l'êtes, exactement. Et puis il y a des années, j'ai vu les régions des perdus, et j'étais là. Je vous dis, mon ami, en tant que vieil homme, laissez-moi vous persuader de ceci. dans tout le pays ce matin, n'ayez jamais le désir de voir cet endroit. D'aucune façon, je ne pourrais, si j'étais un artiste avec un pinceau et je ne pourrais pas peindre le tableau, en tant que ministre, je ne pourrais pas vous le décrire, vous parler de l'enfer comme d'un endroit brûlant. C'est un million de fois pire que ça, les horreurs qui vont avec. Le ciel, ou cet endroit, peu importe où c'était, je ne sais pas comment l'appeler, il s'y référait comme les âmes sous l'autel, mais là, je n'avais jamais, il n'y a aucun moyen d'expliquer à quel point c'était grand. Il y a maintenant, vous devez juste prendre ma parole, je ne suis qu'un homme, vous voyez, mais ces visions se réalisent toujours comme je vous l'ai dit, et vous savez qu'elles ont toutes été vraies, cela est également vrai. Voilà. Quoi que vous fassiez, si vous manquez tout le reste, santé, force, votre vue, quoi que ce soit, ne manquez pas cela. Il n'y a rien qui lui soit comparable. Il n'y a pas de mot dans le langage anglais que je connaisse qui pourrait l'exprimer. Si vous disiez parfait, c'est au-delà de ça. Superbe, c'est au-delà de ça. Sublime, il n'y a pas de mot que je connaisse qui pourrait l'exprimer. Parce que c'était si... Et puis de penser que ce n'est pas encore la fin de cela, j'ai pensé, moi, avoir peur d'arriver là. J'ai dit, mangez-vous. Il a dit, pas ici, nous ne mangeons pas ici, mais quand nous retournerons sur la terre, nous recevrons un corps dans lequel nous mangerons. Eh bien, je pouvais les toucher. Ils étaient comme ça, voyez. Et j'ai dit, eh bien, vous avez... Oui, ils ont un corps. Pas juste un mythe, c'est un corps. Nous nous connaissons les uns les autres. Ils me connaissaient tous. M'étreignaient des millions d'entre eux. J'ai dit, eh bien, je veux voir celui qui m'a amené ici. Il a dit, tu ne peux pas le voir maintenant, tu dois attendre. J'ai dit, pourquoi m'avez-vous mis en haut ici? Il a dit, tu es un leader dans la vie. Voulez-vous dire qu'ils sont tous des Branham? Ils ont dit, non, ce sont tes convertis à Christ, vous voyez. J'ai regardé autour de moi. Et puis, toutes les soirées difficiles et les épreuves sont disparues quand j'ai pu voir leur visage. Une jeune femme est accourue là-bas, l'une des plus belles, et elle a simplement jeté ses bras autour de moi et a dit, « Précieux frère ». Et quand elle est passée, maintenant, elle était une femme aussi. Mais là, il n'y aurait jamais de péché. Vous voyez, nos glandes sont changées là-bas. Ils n'élèveront plus d'enfants là-bas. Vous voyez, tous pareils. Ce qui fait la différence, c'est la sensation. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas au fait d'aller sur une piste de danse. Aucun homme, moi, devant Dieu et ma Bible, j'ai vécu proprement comme cela tout mon parcours. Quand j'étais un petit garçon tout au long de ma jeunesse, la fille avec qui je sortais, je pourrais faire face au jugement avec elle, vous voyez. Mais il n'y a aucun homme, peu importe qui vous êtes, qui peut laisser une femme, telle que la femme est faite, se serrer contre vous. Si vous êtes un homme véritable, en bonne santé, il y a une sensation, mais là-bas, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de glande. Ils ont tous la même glande, vous voyez. Juste un amour pur et sans tache des sœurs et des frères, encore plus que celui pour votre, même pour votre, d'éteindre votre propre petite fille, vous voyez. Votre propre petite fille, elle est quand même faite et elle est une femme et vous êtes un homme. Vous voyez, ça pourrait générer quelque chose, mais là, ça ne peut pas. Le péché est terminé. C'est entièrement fini. Vous voyez, un amour simplement réel et saint. Et je regardais cette femme, il semble qu'elles étaient des millions là, et elle avait tous les cheveux longs et de longs vêtements blancs. Et celui qui me parlait m'a dit, « Ne la reconnais-tu pas? » Je dis, « Non, elle était dans les 90 ans quand tu l'as conduite à Christ. » Grâce étonnante, comme le son en est doux. Vous voyez, il n'y a aucun moyen d'expliquer ce que c'est. Prenez juste ma parole si vous me croyez. Assurez-vous de faire brûler tous les ponts du monde derrière vous. Je crois que l'Église commence à entendre le message et commence à le comprendre. Mais mes amis, écoutez, nous devons nous retrouver dans la présence du Fils. Nous devons mûrir. Notre foi n'est pas mûre. Intellectuellement, nous entendons le message que Dieu nous a donné. Et en voyant les signes qu'il nous a montrés et en le prouvant par la Bible, c'est là. Mais, oh, comme l'Église a besoin de demeurer dans sa présence jusqu'à ce qu'elle s'attendrisse, vous savez, et devienne douce dans l'esprit afin qu'elle puisse s'y baigner. Parfois, en parlant du message, vous devenez dur, vous devez le faire pénétrer comme ça, parce que vous devez river un clou pour qu'il tienne. Mais une fois que l'Église l'a reçu, l'élu, elle est appelée et séparée, alors dans la présence de Dieu. Je sais que ce sera semblable aux gens qui étaient là-bas quand elle va partir dans l'enlèvement. J'allais parler ce matin sur l'enlèvement, mais je n'ai pas assez de voix pour le faire, et donc vous me supporterez juste un peu de temps. Eh bien, je peux parler sur le sujet, le seul lieu d'adoration pourvu par Dieu. Maintenant, c'est un texte très volumineux, alors prions maintenant. Et à travers le pays ce matin, où que vous soyez, inclinez la tête quelques instants. Soyez vraiment sincères maintenant. Nous approchons la parole de Dieu, qui est Dieu sous forme de lettre. Grand auteur de ce livre, c'est une semence. On nous enseigne qu'un semeur a semé. Ainsi dit l'auteur maintenant, nous réalisons qu'une semence va pousser si elle est dans le bon type de sol. Alors, Père, veux-tu ce matin retirer toutes les ronces et les chardons et l'incrédulité et les pensées sceptiques de nos cœurs? Que la parole de Dieu puisse grandir librement, arrosée par l'Esprit dans notre cœur, afin que nous devenions le peuple de Dieu. Accorde-le, Père, c'est notre cœur. Non seulement pour nous qui avons reconnu ceci, mais qu'il y en ait d'autres dans tout le pays, que chaque cœur brûle d'amour et de tendresse et aille essayer de gagner un frère perdu, une sœur perdue. Accorde-le aujourd'hui, Dieu. Nous regardons entièrement à toi, car tu es notre guide et notre Seigneur. Alors nous prions pour que tu nous diriges dans ta parole aujourd'hui et que tu nous donnes de tes bénédictions. Par ta grâce et en ton nom, nous le demandons. Amen. Maintenant, prenons notre texte. Je veux lire dans le livre de Deutéronome, l'Ancien Testament. Juste pour établir l'écriture, j'ai quelques notes que j'ai prises rapidement après mon retour du petit-déjeuner avec Frère Vail. Je n'ai jamais eu l'occasion de remercier l'homme de cet hôtel, ce restaurant l'autre soir qui a payé pour notre souper. Ma femme et moi et ma petite-fille étaient là, et quand je suis allé payer ma note, quelqu'un l'avait payé. Qui que c'était? Je vous remercie. Il a dit, l'homme qui est assis au bout du banc. Bien entendu, il y avait tout un groupe que nous connaissions. Maintenant, quelque chose comme Kickapoo, quelque chose comme ça, l'endroit ici, le restaurant où nous étions. Merci, qui que ce soit, qui a fait ça. Chacun de vous, que Dieu vous bénisse. Maintenant, dans Deutéronome, au chapitre 16, c'est l'ordonnance de la Pâque. Nous souhaitons donc lire les premiers quelques versets, les premiers 4 ou 5, 6 versets, ici. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque, cela signifie Av-El, en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain avec, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. Et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Maintenant, que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Maintenant, est-ce que les microphones sont embrouillés? Hier soir, j'ai entendu qu'ils l'étaient. Pouvez-vous bien entendre de partout? Vous n'entendez pas bien? Est-ce mieux comme ça? Est-ce mieux comme ceci, en parlant avec les micros bas comme ça? Je suis juste un peu enroué, c'est pour ça que je me tiens proche ce matin. Et j'espère que Frère Perry pourra s'en sortir là-bas. Pouvez-vous entendre comme il faut maintenant? Je pense qu'ils l'ont ajusté très bien. Maintenant, la chose dont je veux parler ce matin, c'est que Dieu n'a qu'un seul lieu où l'adorateur peut rencontrer Dieu. Seulement un endroit. À travers les âges, beaucoup ont cherché le lieu secret de Dieu, à travers tous les âges. Même Job voulait savoir où il vivait. Si seulement je pouvais aller chez lui et frapper à sa porte. Job voulait trouver la demeure de Dieu, car là, Dieu et sa famille adorent ensemble. Comme hier, dans le message d'hier matin, nous avons vu qu'il y a une possibilité que quelqu'un adore en vain. Avec une adoration sincère. Dieu a établi toutes ces choses pour nous. Mais la chose est que nous devons chercher pour trouver où elles sont. Paul a dit à Timothée de chercher et d'être prêt en saison et hors saison à donner un mot ou de l'espérance qui est en lui. Maintenant, toutes ces choses sont là et nous voyons. Parfois, j'aimerais venir à Shreveport où nous pourrions prendre 2 ou 3 semaines, juste 30 minutes par soir et seulement sur un enseignement. Vous voyez, rester seulement dans la parole, ces passages secrets, vous voyez, où nous pourrions découvrir comment entrer. Et vous regardez, vous suivez la direction de Dieu. Il n'y a qu'une seule clé pour chaque porte. C'est vrai. Et aucune autre clé, peu importe à quel point elle lui ressemble, Dieu n'a pas de clé passe-partout. Il n'a qu'une clé. Maintenant, vous devez avoir cette clé, sinon la porte ne s'ouvrira pas. Peu importe votre sincérité, vous ne pourrez toujours pas ouvrir cette porte. Maintenant, combien étaient au petit déjeuner d'hier ou d'autre matin plutôt? D'accord, je pense que la plupart, au moins 90 % d'entre vous ou plus. Pour résumer ceci, ce que je vais dire, David a été roi de Dieu. Le plus grand roi qu'Israël ait jamais eu à part le Seigneur Jésus, qui est Dieu, celui qui est oint. David est son fils, ou Jésus était fils de David selon la lignée, la chair. Il va s'asseoir sur le trône de David en tant que hérité. Le prince hérite toujours du trône du roi. Remarquez, maintenant que David est en oint, pourtant, avec l'onction qu'il avait, il est sorti de la volonté du Seigneur avec cette onction. Et tout le peuple, ne prenant pas le cours des Écritures ou la clé de cette révélation, tous, loin aussi, tous ensemble, criant et louant Dieu pour une chose qui semblait tout à fait juste. Ramener la parole de Dieu à la maison de Dieu. Mais David était roi, pas prophète, voyez. Il y avait un prophète dans le pays par qui le faire, et Dieu n'a pas honoré leur agissement parce qu'ils n'ont jamais utilisé la bonne clé. La porte ne s'est pas ouverte. Et maintenant, nous devons nous en souvenir et garder cela à l'esprit. Il y a tout de Dieu doit être fait d'une seule façon, et ça règle la question. Maintenant là, Dieu avait une certaine église où il rencontrait le peuple et il vous rencontrera dans cette église et aucune autre église. Il dit ceci parce que tant de fois, j'ai été mal compris et les gens m'ont dit, je dis, êtes-vous chrétien? Je suis baptiste. Êtes-vous chrétien? Je suis un méthodiste. Êtes-vous un chrétien? Je suis un pentecôtiste. Maintenant, voyez, cela ne signifie rien pour Dieu. Vous essayez juste d'ouvrir avec la mauvaise clé. Mais il y a une bonne clé. Il y en a une où Dieu n'a jamais promis de vous rencontrer en tant que méthodiste, ou en tant que baptiste, ou pentecôtiste, ni aucune autre dénomination. Il ne considère même pas les dénominations. Elles sont contre lui. Sur ce long message, je l'aurai bientôt au tabernacle, et puis Frère Jack l'entendra, et alors vous pourrez voir ce que vous voulez en faire, parce que ça va être enregistré. Maintenant, Les gens agissent comme si Dieu était obligé de les rencontrer sur la base de leur théologie. Bon, les gens agissent comme ça. Ils ne s'associeront même pas entre eux. La Trinité ou les pentecôtistes ne s'associeront pas aux unitaires et les unitaires ne s'associeront pas aux trinitaires. La méthodiste ne le fera pas avec les baptistes parce que l'un est un légaliste et l'autre est un calviniste. Donc, ils n'ont aucune communion du tout. Et ils enroulent si bien l'esprit des gens qu'ils sont même les uns contre les autres. Je suis allé prier il y a quelque temps dans une chambre d'hôpital. Il y avait une femme étendue là qui était très malade. Elle allait subir une opération. Il s'attendait à ce qu'elle meure. Une autre dame était couchée là. On m'avait appelé pour prier pour elle. Je lui ai dit, est-ce que cela vous dérangerait que je prie juste un moment? Elle a dit, tirez ce rideau. J'ai dit, je suis désolé. J'ai dit, je voulais juste demander de prier. Elle a dit, tirez ce rideau. J'ai dit, oui, madame. Et elle et son fils étaient là, un petit Ricky au regard mondain. Et j'ai dit, eh bien, n'êtes-vous pas chrétienne? Elle a dit, nous sommes méthodistes. J'ai dit, eh bien, je ne vous ai jamais demandé cela. Je vous ai demandé si vous étiez une chrétienne, voyez? Et donc, elle a dit, tirez ce rideau, voyez? Parce que quelqu'un qui n'était pas méthodiste allait offrir une prière pour une femme mourante, ce qu'elle était aussi. Mais parce qu'elle n'était pas associée à sa propre organisation, elle ne voulait même pas l'entendre ou avoir quoi que ce soit à faire avec cela. Si ce n'est pas une pharisienne, je n'en ai jamais vu une. Attendez d'entendre la trace du serpent. Bon, maintenant, ils pensent que leur dénomination est la seule qui est enregistrée auprès de Dieu. Dieu ne vous entendra pas si vous n'êtes pas méthodiste ou baptiste ou un trinitaire ou un unitaire ou quelque chose du genre. C'est faux. Et c'est mon but, car s'il y a un tel désir dans l'esprit et le cœur des gens d'avoir raison, je ne crois pas que la femme l'ait fait parce que ni quelqu'un d'autre. Un méthodiste ne se lèvera pas pour appuyer l'Église méthodiste parce qu'il sait que c'est faux. L'homme pense que c'est juste. Je ne crois pas qu'un trinitaire condamnerait un unitaire ou un unitaire à un trinitaire ou un pentecôtiste parce qu'il veut être différent. Il pense qu'il a raison. Et vous devez respecter son idée. Vous savez, la couverture s'étend dans les deux sens. Mais souvenez-vous, dans tout cela, s'il y a quelque chose dans le cœur d'un homme ou dans le cœur d'une femme qui croit que c'est juste, alors il doit y avoir un endroit qui est exact. Comme je l'ai souvent dit, quand la profondeur appelle la profondeur, il doit y avoir une profondeur pour répondre à cet appel. Vous savez, on nous a dit qu'un phoque marchait autrefois sur le rivage de la mer avec des pattes. Mais maintenant, il n'y a plus de pattes. Elles se sont transformées en nageoires parce qu'il avait besoin de nageoires quand il laissait la terre pour la mer. Un animal à fourrure, la nature lui a formé des nageoires au lieu des pattes parce qu'il pouvait nager plus que marcher. Je ne me rappelle pas le nom de ce grand homme maintenant qui est allé au pôle sud. Qui était son nom? Bird. Ils disent qu'il avait des manteaux pour son bétail à cette exposition, qu'il avait pris du bétail qui produit du lait, et il avait fait des manteaux de fourrure pour protéger son bétail de gelée à mort. Mais quand il est arrivé là, il n'avait pas besoin d'aucun manteau de fourrure. La nature leur en avait fait pousser un. Voyez? Pourquoi? Avant qu'il y ait une nageoire sur le dos d'un poisson, il devait y avoir de l'eau pour qu'il nage ou il n'aurait jamais eu de nageoire. Là, avant qu'il y ait un arbre qui pousse sur la terre, il devait y avoir premièrement une terre pour qu'elle y pousse, sinon il n'y aurait pas eu d'arbre. Donc, vous voyez, aussi longtemps qu'il y a quelque chose dans le cœur humain qui a soif de quelque chose, il doit y avoir quelque chose, quelque part, pour satisfaire cette soif. Une femme, une autopsie a été faite il y a quelque temps sur une femme qui était morte. Et la raison, ils prétendent que ce qui l'a tué, elle mangeait des oignons constamment tout le temps. Si elle ne mangeait pas d'oignons, sa tête lui démangeait et tout, il ne pouvait pas le figurer. En tenant ainsi l'autopsie, ils ont trouvé une tumeur dans la femme d'une sorte de cellule. Il y avait un mot pour cela. Ils ont pu prendre cette tumeur et la mettre dans un bol d'oignons et elle a dissous les oignons pendant la nuit. Voyez? Qu'est-ce que c'était? C'était quelque chose chez la femme qui réclamait des oignons Et s'il n'y avait pas eu d'oignon, il n'y aurait pas eu de tumeur. En d'autres termes, il devait y avoir un créateur, premièrement, avant qu'il puisse y avoir une création. Voyez? Maintenant, si dans le cœur humain, il y a un désir, comme méthodiste, baptiste, presbytérien, catholique, toutes ces autres, et qui essaient de trouver ce seul et véritable chemin, et leurs prêtres et pasteurs et ainsi de suite leur disent, c'est le véritable chemin. Ils disent, le prêtre dit, il n'y a pas de salut hors de l'Église catholique. Eh bien, chaque Église prend sa propre idée. Certains d'entre eux ne l'admettront pas, mais ils le prouvent par leur action. Vos actions parlent plus fort que vos paroles. C'est juste. Hein? Autrement dit, ils sont juste plus hypocrites que les catholiques. Le catholique le confesse à haute voix. Je crois que c'est la seule chose. Mais ils ne le feront pas. Ils le cachent. Mais leurs actions prouvent ce qu'ils pensent, voyez? Maintenant, il se doit d'y avoir un endroit parce qu'il y a un désir dans le cœur humain de le trouver. Et je pense que la parole de Dieu a la réponse à tout ce dont nous avons besoin. Donc Dieu a la réponse. Alors cherchons-la dans les Écritures. Et puis, si Dieu nous montre par les Écritures le seul endroit, le seul terrain, la seule dénomination, si c'est le cas, la seule façon pour Dieu de rencontrer un homme, alors nous devrions nous en tenir à cela, parce que nous avons trouvé la vérité de la Bible, ce qu'elle dit. Maintenant, le mot « Deutéronome », le mot lui-même signifie « deux lois ». Le mot « Deutéronome ». Et Dieu a deux lois. Les deux lois, l'une d'elles est la désobéissance à la parole et mourir, et l'autre est l'obéissance à la parole et vivre. Ce sont les deux lois. Et Deutéronome signifie ces deux lois. Elles ont toutes deux été absolument exposées dans les Écritures. L'une d'elles est la mort, l'autre est la vie. La vie et la mort. Dieu traite seulement avec la vie, Satan seulement avec la mort. Et celles-ci ont été démontrées au monde publiquement, ouvertement, sous tous les yeux, et il n'y a aucune excuse pour nous. L'une d'elles était déployée sur le mont Sinaï, quand la loi fut donnée, ce qui condamnait à mort l'humanité tout entière. L'autre a été donnée sur le mont du Calvaire, ce qui a ramené toute la race humaine à la vie, lorsque la peine a été payée en Jésus-Christ. Les deux lois de Deutéronome étaient accomplies dans ces deux grandes choses. Je veux que vous remarquiez encore, il y avait aussi deux alliances qui ont été données. Une alliance a été donnée à Adam, qui était sous condition, comme la loi. Si tu ne touches pas à cela, alors tu vivras. Mais si tu touches ceci, tu mourras. C'était une loi. Puis, il y a une autre loi qui a été donnée à Abraham, qui était par grâce, inconditionnellement. Je t'ai sauvé, toi et ta semence après toi. Amen. C'est un type du calvaire. Ce n'est pas le type de l'alliance d'Adam. C'est une alliance abrahamique. Mais maintenant, nous l'entendons dire qu'il n'y a qu'un seul endroit où il rencontrera l'homme pour l'adoration. Vous l'avez entendu ici même dans le texte. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Alors, s'il n'y a qu'un seul endroit où Dieu rencontre l'homme, nous ferions mieux d'être très prudents. Maintenant, laissons nos traditions de côté ce matin. Et dans cette leçon d'école du dimanche, soyons absolument certains de trouver cet endroit. Parce que Dieu a dit ici qu'il ne vous recevra pas dans un autre endroit. Toute autre église, il ne vous recevra pas, seulement dans son église, le seul lieu où il vous recevra. Maintenant, qu'est-ce que vous avez dit, frère Branham, si je suis sincère? Non. Rappelez-vous, Jésus a parlé à des gens sincères, des adorateurs en son jour, et il a dit, « En vain, m'adorez-vous. » Une véritable et authentique adoration du fond de leur cœur. En vain, m'adorez-vous, enseignant, pour doctrine des commandements d'hommes ou leur credo dénominationnel. Sincère, révérencieux, tout aussi religieux que possible, Et ce n'était pas nouveau seulement avec les pharisiens. Caïn et Abel, les deux premiers adorateurs qui sont nés, de naissance naturelle ici sur la terre, sont absolument venus avec la même attitude. Caïn était tout aussi religieux qu'Abel. Ils ont tous deux construit des autels. Les deux aimaient Dieu, les deux ont fait des sacrifices, les deux ont adoré, les deux ont payé la dîme, les deux ont fait les mêmes choses. Mais Abel, par la foi, qui est la révélation, la parole de Dieu révélée, rendue claire, démontrée et confirmée, gloire. Caïn a fait une offrande, mais Dieu ne l'a pas approuvée. Dieu exigeait l'adoration et Caïn a fait l'offrande, mais Dieu ne l'a pas approuvée. Mais par le véritable canal, vous dites, eh bien, mon Église est cela, mais attendez juste une minute. Dieu interprète sa propre parole selon les termes dans lesquels il a parlé. Voyez, Caïn a dit, je suis religieux, je suis amoureux de mon Créateur, je t'offre ce bel autel, je t'offre ce sacrifice. J'ai construit ces choses, Seigneur, parce que je t'aime. Abel a dit la même chose. Maintenant, c'est celui qui a été confirmé, celui qui a été accepté. Et Dieu est descendu et a accepté le sacrifice d'Abel parce que par révélation, il avait saisi le véritable canal de Dieu qui était accepté. Maintenant, surveillez cet esprit de Caïn se faufiler à travers les Écritures jusqu'à ce dernier jour. Fondamental, tout aussi fondamental que l'autre l'était. Regardez le prophète Balaam et le prophète Moïse. Les deux avaient sept autels, des autels de Jéhovah, du sang sur chacun d'eux, et non seulement cela, mais des béliers sur chacun, selon la numérologie, exactement le bon nombre, sept, parfait, sept béliers, exactement pareil, les deux autels, aussi fondamentaux qu'un l'était, l'autre l'était aussi. Mais qui Dieu a-t-il confirmé? Voyez? Voyez? Celui qui était dans sa parole. D'être fondamental ne signifie pas grand-chose, c'est la révélation de Dieu. Maintenant, réfléchissez, ces hommes, pourquoi étaient-ils appelés et mis dans cette condition, ces pharisiens, par Jésus qui a déclaré, « C'est en vain que vous m'adorez ». L'adorer, une adoration authentique, une véritable adoration venant de leur cœur. « Vous, en vain, m'adorez-vous ». Pourquoi? Enseignant pour doctrine leur tradition d'homme. Par conséquent, vous anéantissez les commandements de Dieu pour le peuple. Si je vous enseignais un message méthodiste, cela n'aurait pas d'effet sur vous. C'est le temps de l'épouse. Si Moïse avait enseigné le message de Noé, cela n'aurait eu aucun effet. Si Jésus avait enseigné le message de Moïse, cela n'aurait eu aucun effet. Parce que les semences prédestinées sont là. Elles ne seront arrosées que par ce type d'eau donnée pour cette semence. Voyez, ils ne développeront pas sous aucune autre condition. Ce doit être la condition requise pour la faire pousser. Maintenant, vous pouvez prendre un œuf de poule et le mettre dans un incubateur, lequel devrait se trouver sous une poule, mais il va éclore de toute façon. Mettez-le sous un chiot et il éclora. C'est la chaleur, la condition qui le fait éclore. Donc, cela doit être sous condition. Vous pouvez prendre un bon œuf vivant et le mettre sous une poule morte. Il n'éclora pas, voyez? Voyez, c'est la condition. Eh bien, c'est comme ça, dans cet âge où nous vivons, vous devez trouver ce qui est la façon de faire de Dieu pour cet âge. C'est ce que Martin Luther a trouvé. C'est ce que John Wesley a trouvé. C'est ce que les pentecôtistes ont trouvé dans leur âge. L'âge déterminé par Dieu et le temps pour le faire. Maintenant, les pentecôtistes, ce frère, je crois que un de ses yeux ne voyait pas un frère de couleur qui a vraiment commencé le message pentecôtiste en Californie sur la vieille rue Azusa. On se moquait de lui, et parce qu'il était un noir, on se moquait de lui. Mais il a amené un message pour cet âge. Juste un tout petit homme, un gars qui pouvait à peine signer son propre nom, mais le Seigneur lui avait révélé que c'était l'âge pour la restauration de ses dons, et ils sont venus. Peu importe ce qu'on disait, c'est venu. Puis chacun est entré dans l'atmosphère de la chose et ils ont vu que c'était cet âge et ont vu Dieu confirmer que ces gens pouvaient parler en langue et ainsi de suite. C'est arrivé. Mais quand il a continué à affirmer que c'est la seule évidence, cela l'a tué. Voyez? Ça continue, voyez? Ça l'a tué. Ensuite, ils ont commencé à séparer ceci, cela et à faire des dénominations, un qui vient sur un nuage et l'autre qui vient dans un buisson et oh là là, c'était parti. C'est ce que font les dénominations. Vous voyez, Dieu n'est pas l'auteur de la dénomination parce que la dénomination, c'est Babylone et il n'est pas l'auteur de la confusion. Mais nous le voyons là, tout, mais vous n'avez pas besoin d'être intellectuel pour le voir, c'est Babylone. Vous voyez, la tradition, pensez-y, les gens sincères. Maintenant encore, parce qu'ils croient cela, il faut qu'il y ait encore un lieu sincère où Dieu peut nous rencontrer. Maintenant, remarquez le verset 2. L'adoration dans le lieu que j'ai choisi. Le sacrifice, bien sûr, où ils adorent et vont offrir des sacrifices. Le lieu que j'ai choisi. Non pas ce que vous avez choisi, ce que l'homme a choisi, mais celui que j'ai choisi, vous adorerez dans ce lieu. Cela montre qu'il n'y a qu'un seul lieu, les autres sont vains. Ça doit ne pas être votre choix, mais ça doit être son choix. Eh bien, je n'ai pas besoin d'aller à l'église où vous êtes si étroit d'esprit. Eh bien, vous réprimandez même les femmes ou si le fait de prêcher et les femmes qui coupent leurs cheveux et les hommes et sur ces autres choses. Eh bien, vous êtes tellement étroit d'esprit. Très bien, vous n'êtes pas obligé de prendre la voix de Dieu là-dessus. Vous allez là et ils font cela, voyez. Et vous découvrez que c'est dans l'Écriture. Donc, c'est en vain qu'ils m'honorent, voyez. Jésus parlait de la même chose, vous voyez. Chaque petit iota, tout, vous devez y rester fidèle. C'est toujours la petite vigne, le petit renard qui ravage la vigne, vous voyez. Parfois, vous laissez, ce ne sont pas les grandes choses que vous faites, ce sont les petites choses que vous négligez de faire. Rappelez-vous, la force d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible. Heureux ceux qui observent tous les commandements de Dieu, afin qu'ils puissent avoir le droit d'entrer. Faites tout ce que Dieu a dit. Il a dit que les femmes portent les cheveux longs. Vous dites, un homme m'a dit qu'il n'y a pas longtemps, il a dit, je ne prêche pas la région d'une marque de vêtements. Il dit, alors vous ne prêchez pas l'Évangile. Dieu a mis cela et il a dit que ce qu'il fallait faire. Et soit que vous le faites, c'est pour vous une chose naturelle, raisonnable. Quelle petite chose, la petite chose insignifiante. Jésus a dit, heureux ceux qui sont fidèles dans toutes les petites choses, qui observent les petites choses. Et pour une femme de laisser pousser ses cheveux, c'est simplement un... Eh bien, c'est quelque chose qu'elle peut faire. Et elle ne le fera même pas. Elle ne le fera même pas. On enseigne-nous de grandes choses. Comment pouvez-vous nous enseigner de grandes choses quand vous ne voulez pas faire la chose simple, habituelle? Parce que, voyez-vous, votre motif et votre objectif sont faux. C'est votre amour pour Dieu. Seigneur, peu importe ce que tu veux que je fasse, je suis prêt à le faire. Ensuite, vous arrivez quelque part. Mais si vous ne le faites pas de cette façon, la façon dont il a dit de le faire, c'est son choix, le lieu que j'ai choisi. C'est là que vous adorerez avec votre sacrifice. Tu as mis Caïn à apporter son sacrifice, Abel à apporter le sien. Cela dépend de l'endroit où vous l'apportez. Si vous l'apportez dans le lieu qu'il a choisi, ce sera bien, il va l'accepter. Sinon, il ne l'acceptera pas. Peu importe, c'est le même sacrifice, quoi que ce soit. C'est toujours rejeté, à moins qu'il soit amené à un certain endroit. Maintenant, nous voulons savoir où nous devons apporter ce sacrifice. Si nous pouvions le savoir, nous voulons tous aller au ciel, n'est-ce pas? Et nous savons tous que nous avons mal agi. Et nous croyons tous que Jésus est le sacrifice. Maintenant, nous voulons savoir où l'amener. Ce sera accepté, voyez? C'est vrai. La Bible nous dit où l'amener. Alors, ce sera accepté. En dehors de là, il ne sera pas accepté. Remarquons ici le lieu qu'il a choisi pour le sacrifice. Le lieu qu'il a choisi pour mettre le sacrifice. On ne peut pas le mettre sur aucune de ses portes. Mais le lieu qu'il a choisi pour le mettre, il a également mis son nom dans ce lieu. Vous voyez? C'est ce qu'il a dit ici. Il a choisi d'y mettre son nom. Maintenant, nous allons chercher dans les Écritures pour trouver ce lieu, car c'est le lieu où il a mis son nom. Lisons maintenant dans le texte. Et j'avais une petite note ici que ce matin qui m'est venue. Prenons le verset 2 de ce chapitre. Maintenant, je ne veux pas vous garder trop longtemps à cause des gens de l'extérieur qui sont connectés. Maintenant, le verset 2 de ce chapitre 16. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Maintenant, vous ne pouvez pas prendre votre sincérité et tout ce que vous voulez confesser, vous ne pouvez pas l'amener à l'hôtel méthodiste ou à un hôtel baptiste ou à un autre pentecôtiste, mais il y a un hôtel quelque part qu'il a choisi pour y mettre son nom et il vous rencontre à cet endroit. Maintenant, si vous faites tout fonctionner correctement, ça va fonctionner, que tout est en ordre. S'il y a un court-circuit dans ce fil, cette lumière ne s'allumera pas parce qu'il y a une mise à la terre. Et quand vous prenez l'une des paroles de Dieu ou l'une de ces endroits et que dans votre cœur, il y a des objectifs égoïstes, ça va mettre à terre la puissance de Dieu juste là. Si vous le faites parce que vous voulez paraître intelligent, vous voulez être différent de quelqu'un d'autre ou quelque chose, juste là, il y a une mise à la terre, ça va faire sauter la fusible. Vous avez tort. Vous devez venir avec sincérité de tout votre cœur. Vos motifs et vos objectifs focussés sur Dieu. Par la suite, cherchez son lieu, trouvez où il l'a dit et apportez-le là. Vous voyez? Remarquez, regardez Marthe et Marie. Quand Jésus était revenu, après qu'il leur eut enseigné cet évangile, la lumière de son jour, lui étant le Messie, il était haï, rejeté. Oh, les pharisiens et les églises le méprisaient. Mais Lazare était mort. Le frère qui était un ami intime pour lui, il l'a laissé étendu là et ils l'ont envoyé chercher. Il n'est même pas venu. Mais regardez Marthe, son attitude. Elle a dit, « Seigneur, si tu avais été ici, elle lui a donné son titre juste. Seigneur, S-E-I-G-N-E-U-R, S majuscule, Seigneur, Yahvé, Jéhovah, gloire. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » La vie et la mort ne peuvent pas se trouver dans la même canal ou dans la même maison. Tu avais, il ne serait pas mort. Jésus lui a dit, « Je suis la résurrection et la vie, » dit Dieu. Quand il a dit premièrement, « Ton frère ressuscitera », elle a dit, « Oui, Seigneur, je le crois vraiment. En tant que juive, je crois qu'il y aura une résurrection générale des morts. » Et je crois que mon frère était tout aussi loyal et sincère dans l'adoration. Et je crois que tu es ce Messie qui est mentionné dans la Bible parce que Dieu confirme sa parole en toi. Cela indique que tu es le messager de cette heure. Tu es ce Messie. Je crois que tu es ce Christ qui devait venir parce que tes œuvres témoignent que Dieu t'a envoyé ici pour être ce Messie. Oh là là! Regardez les rouages commencer à tourner maintenant. Maintenant, elle avait le droit de dire, « Pourquoi n'es-tu pas venu voir mon frère? Pourquoi n'as-tu pas guéri? Tu as guéri les autres, ton meilleur ami, et regarde maintenant ce qui est arrivé. » Non, non, ce genre d'objectif ne mène nulle part. Je crois que tu es exactement ce que l'Écriture t'identifie à être. Je crois que c'est le jour où le Messie devait venir. Nous attendions à cela. Peu importe ce que les autres disent, je crois de tout mon cœur, parce que j'ai vu et entendu de la parole, que la parole est identifiée en toi et que tu es ce Messie. Voyez, au fond d'elle-même, elle avait quelque chose à demander, mais elle devait venir par le bon canal. Et si elle avait couru là-bas pour dire, « Hé là, tu me dis que tu es le Messie. » Sans même la courtoisie d'être assez gentleman pour répondre à notre demande, alors que nous t'avons nourri et logé, et tout est pris position pour toi. Laisse nos églises comme tu nous as ordonné de sortir de cette dénomination. Voyez, nous l'avons laissé et maintenant nous sommes vus comme des rebuts et des renégats. Et tout ce que nous avons fait pour toi est là, pas même la courtoisie de répondre à mon appel. Maintenant, en fait, elle avait ce droit. Comme vous dites en rapport à vos cheveux courts, je suis citoyenne américaine, je peux porter des shorts, faire tout ce que je veux, ce n'est pas illégal. Ce sont vos droits, mais une brebis abandonne toujours ses droits. Si vous êtes un agneau, vous n'avez rien de la laine. Il abandonne cela. C'est son droit donné par Dieu, mais il l'abandonne. J'ai le droit d'adhérer à une dénomination. C'est tout à fait exact. Mais vous abandonnez cela, voyez? Elle a renoncé à tous les droits qu'elle avait pour reconnaître la parole de Dieu manifestée là devant elle. Il a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand bien même il sera mort, il vivra. Si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Voyez, il y avait encore une petite clause avec laquelle elle ne s'était pas alignée. « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Oh, frère, tout était prêt à se déclencher à cet instant même, vous voyez? Où l'avez-vous mis, vous voyez? Et vous savez ce qui s'est passé. Vous devez entrer dans cet endroit choisi avant qu'il reçoive votre sacrifice, vous voyez? Vous devez y entrer, regardez, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Tu ne mangeras pas du pain levé. Qu'est-ce que cela typifie dans le sacrifice? De ne pas le mélanger avec aucun credo. Ça doit être la parole. Pas de pain levé. Le levain est le... Vous savez ce qu'est le levain dans quoi que ce soit? Un peu de levain fait lever toute la pâte. La pâte entière est le corps. Vous ne pouvez mettre aucun brin de dénomination ou de credo en Christ. Non, monsieur, ça ne fonctionnera pas. Souvenez-vous du message de jeudi soir dernier? Votre vieux mari doit être mort, c'est vrai. Votre nouveau mari est la parole. Tu mangeras 7 jours des pains sans levain. 7 jours, qu'est-ce que cela typifie? Les 7 âges de l'Église entière, 7 jours. Pourquoi devait-il en manger 7 jours? Avant quoi? Avant de sortir. Et l'âge de l'Église, du début à la fin, doit vivre uniquement de la parole de Dieu pour cet âge. Et si votre credo romain, méthodiste, baptiste et vos credos de pentecôtistes sont tous morts, regardez, dedans, le pain d'affliction. Persécuté pour elle, Luther, Wesley, les pentecôtistes, tous persécutés, ainsi le serez-vous. Car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte, afin que tu te souviennes du jour, souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain, dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. Dans la belle épouse de Christ, après sa mort, à travers les âges sombres de l'Empire romain, où elle devait mourir, si le grain de blé ne tombe en terre, l'époux devait venir, le chef-d'œuvre parfait de Dieu. Vous avez tous entendu mon message sur ce sujet. Et je suis allé à Los Angeles, à Forest Lawn, un jour, et mon cœur a fait un bond. Combien sont déjà allés à Forest Lawn? Il y a une statue, la statue de Moïse par Angelo. Je crois que c'est Michel-Ange. Et c'est une statue parfaite, partout, sauf sur le genou droit. Il y a une entaille profonde sur 1/2 pouce. Et le guide, je la cherchais, il me l'a pointé du doigt. Il a dit, « Michel-Ange a passé toute sa vie à essayer de faire. » Il était sculpteur, il essayait de reproduire l'image de Moïse. Dans sa pensée, il avait dans son esprit ce à quoi Moïse devait ressembler. Il avait cela dans son cœur, ce à quoi Moïse devait ressembler. Et puis, il a passé sa vie à ciseler un peu ici, à le frotter, reculer un peu, et le regarder. Année après année, après année, il a travaillé dessus. Finalement, quand il a été terminé, il s'est reculé et a déposé son chiffon et son marteau. Il a regardé la statue. Elle était si parfaite à l'image de Moïse qu'il avait dans son cœur, qu'il s'est emballé. Il a saisi son marteau et il l'a frappé en hurlant, « Parle! » On l'appelle le chef-d'œuvre de Michel-Ange. C'est grand quelque chose dans ce sculpteur. Cette vision qu'il avait de ce que Moïse devrait être. représentait simplement, sous forme de type, le grand Dieu, notre Père. Il avait dans son cœur, avant la fondation du monde, un fils, parce qu'il est un père. Et c'était encore dans les gènes de sa parole. Il a créé un homme. Il a dû l'établir dans la condition du libre arbitre. Mais cet homme est tombé. Mais le grand sculpteur, Dieu, qui a tiré l'homme de la poussière de la terre, il n'a pas laissé tomber la chose. Il a commencé à faire l'homme de nouveau. Puis il a fait un Noé. Il est mort ivre. Il a fait un Moïse qui n'a pas réussi à garder sa parole. Il a fait des prophètes qui ont fui dans le moment de trouble. Il a continué de construire et de mouler qu'après un certain temps. Il voulait un chef-d'œuvre pour le refléter, sa nature, ce qu'il avait dans son cœur, de ce qu'un fils devrait être. Un jour au Jourdain, après que ce chef-d'œuvre eut été formé et créé, voici qu'il est venu, envoyé sur les ailes d'une colombe, et il a dit, « C'est lui! » Il était si emballé par ce chef-d'œuvre qu'il l'a frappé au calvaire, afin qu'il meure. Car nous étions imparfaits, que par l'effusion de son sang, il puisse produire de nombreux chefs-d'œuvre, soit une épouse pour son fils. Le chef-d'œuvre a une cicatrice à cause de l'enthousiasme de Dieu devant un tel chef-d'œuvre. Il l'a frappé pour nous tous, voyez. Là, il mourut pour nous perfectionner, nous qui sommes imparfaits. Le chef-d'œuvre. Remarquez ici, il a dit, « Tu mangeras 7 jours des pains sans levain. » Maintenant, le pain est un type. Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. » Pas seulement une parole ici et là, comme les dénominations voudraient vous le faire croire. Mais la parole de Dieu est parfaite. C'est Dieu lui-même sous forme de lettre, appelée une semence. Et la bonne sorte de foi pure dans cette parole amènera ses semences à la vie. C'est exactement ce que vous voyez le soir dans les discernements et toutes ces autres choses, parce que c'est une promesse que Dieu a faite. Il s'est tenu avec moi, il m'a dit cela, il m'a dit que ses imitateurs paraîtraient, mais de tenir ferme, je le crois, sans aucun motif égoïste pour blesser quelqu'un, mais pour être révérencieux envers Dieu et pour faire le travail qu'il m'a appelé à faire, c'est pour ça que je dis ces choses. Et Dieu, en retour, les confirme et reçoit l'offrande et le sacrifice en confirmant que c'est la vérité. Il n'y a pas de question là-dessus. Maintenant, surveillez cette parole. Maintenant, on remarque ici, 7 jours, qui sont pour tous les âges de l'Église. Maintenant, comme ce chef-d'œuvre devait mourir afin de ressusciter pour nous racheter tous, il a ensuite eu une Église remise à l'ordre à la Pentecôte. Mais cette Église devait passer par un sacrifice et le monde romain l'a tué, l'a mise en terre. Comme l'auteur de ce livre, je ne me souviens pas en ce moment, qui s'est tellement moqué de moi, il a dit, de tous les démons, c'est William Branham le plus grand. Vous voyez, c'est ce que le diable essaie de penser. Il a dit, les visions et ces choses, il a dit, c'est du diable. Il a dit, ou bien c'est une espèce d'hypnotiseur où il travaille dans le domaine de la perception suprasensorielle. Le monde intellectuel essaie toujours de le comprendre. C'est là qu'ils ont essayé de comprendre Jésus. Comment fais-tu ces choses? Comment ça se fait? Il a dit, je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il de Dieu ou des hommes? Voyez, il a dit, nous ne pouvons pas le dire. Il a dit, moi non plus, je ne vous le dirai pas. C'est vrai, il est parti. À partir de là, personne ne lui a demandé quoi que ce soit. Voyez, il les a juste esquivés. Je ne leur ai rien dit à ce sujet. Ce n'était pas de leur affaire. Il avait un travail à faire. Il l'a terminé. Que Dieu nous aide à faire la même chose. Nous ne devons pas répondre aux questions du diable. C'est vrai, si tu fais ceci, fais cela. Vous êtes responsable de cet évangile. Un prédicateur l'est. Et c'est tout. pas de dire comment c'est écrit, il est simplement responsable de le citer. Et en tant que serviteur, si vous êtes un prophète, vous êtes responsable envers Dieu. Et si la vision qui vient éclaire cette Écriture et montre ce qu'elle est, vous êtes responsable de chaque parole qui est dans cette Bible, parce que ce fut entièrement écrit par le même genre de personne que vous. Après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes et écrit la Sainte Bible, vous voyez, aucun véritable prophète de Dieu ne pourra en nier une parole, mais il croit chaque parole et la prêche pareillement. Et puis Dieu est obligé par ce canal de faire en sorte que cette parole s'accomplisse exactement comme elle est promise. La semence va grandir. Maintenant, remarquez aussi rapidement. Nous voyons ici que durant tous ces 7 jours, ce pain devait être mangé à travers les 7 âges de l'Église. Maintenant, là, elle a dû mourir et tomber en terre. Et ce critique qui a parlé de moi, elle dit, un Dieu que vous adorez, qui pouvait se tenir dans l'âge des ténèbres et regarder les mères enceintes, certaines d'entre elles avec des petits bébés dans leurs bras, des gens sincères, être projetés dans l'arène et les lions qui les déchiraient en morceaux et elles criaient, on les suspendait sur des croix et on les brûlait, on enlevait les vêtements des femmes, des jeunes vierges, elles se laissaient tomber sur le dos comme ceci, puis on relâchait les lions sur elles. Il a dit, un Dieu qui pouvait se trouver dans le ciel, censé être assis sur son trône, qui a abaissé le regard et a dit qu'ils agréaient cela. Alors, vous voyez, c'est de la conception intellectuelle et c'est du diable. Si l'homme avait été spirituel, ils auraient su que ce grain de blé devait mourir, qu'il devait être enterré dans une cathédrale romaine. Mais là, la première petite pousse de vie est apparue à la réforme de Martin Luther, qui était « Le juste ne vivra pas par un cacheur béni qu'un prêtre a fait, mais par la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi. » Il a produit 2 rejetons. Le grain de blé a commencé à pousser. Ensuite, John Wesley est apparu et a ajouté à cela. Il y en a eu beaucoup d'autres que Zwingli et ceux qui reniaient la naissance virginale. Et ça s'est éteint. Mais les méthodistes ont paru, l'aigrette, le pollen, le jour missionnaire, et ils prêchaient la sanctification, et ils ont ajouté l'aigrette. Ensuite, les pentecôtistes sont parus dans la balle, tellement proches, au point de séduire les élus. Ils ressemblaient à un vrai grain de blé, ouvrez-le, il n'y a pas de blé du tout. Mais la vie passait par la balle. Maintenant, avez-vous remarqué, tous les 3 ans, après une grande réunion, qu'est-ce qui se passe? Une dénomination, ceci dure depuis 20 ans, sans aucune dénomination à sa suite. Cher agneau mourant, puisse cela ne jamais se produire. Si je pars dans cette génération, puissent les gens qui croient ce message ne jamais s'arrêter à une dénomination. Dieu, vous allez mourir assurément sur votre chemin. Souvenez-vous de cela. Alors même où vous mentionnez dénomination parmi vous, je me moque de savoir combien vous êtes sincères. Si vous prenez l'homme pour vous conduire au lieu du Saint-Esprit pour confirmer cette parole, c'est l'heure où vous mourrez. La semence véritable ne le peut pas, parce qu'il ne reste rien après la semence. C'est la même chose que ce qu'il y avait au commencement. C'est l'épouse qui est tombée en terre pour produire à nouveau le grain de blé. Remarquez, 7 jours, vous mangerez du pain sans levain. Et il y aura avec l'épouse. Alors vous, les gens qui avez cette bonne vieille mère méthodiste qui criait et ainsi de suite, qui vous êtes demandé si elle ne parlait pas en langue, elle n'y serait pas. C'est un mensonge. Elle avait ce même Saint-Esprit que vous avez aujourd'hui. Mais c'était sous forme d'aigrette, pas la restauration des dons. Mais durant les 7 jours entiers, ne mangez que le pain sans levain la parole. Les autres avant qui ont formé une dénomination, ils sont morts. Ils sont la tige. Ils vont simplement être rassemblés et brûlés. Mais la vie continue d'avancer. Qu'est-il arrivé? Toute la vie qui était dans la tige, dans l'aigrette, dans la balle, se retrouve dans le blé. Et ce même Saint-Esprit qui a produit un Luther, un Wesley, la Pentecôte, se retrouve dans l'épouse à la résurrection. 7 jours, mangez du pain sans levain. Aucun levain ne sera trouvé parmi l'épouse, sans aucune parole ajoutée, ni rien. Rappelez-vous, une seule parole a provoqué toute la mort sur la terre. Chaque enfant illégitime est né à cause d'Ève. La première Église, l'épouse du premier Adam, a mis en doute la parole de Dieu et a accepté une école dénominationnelle ou intellectuelle ou une exception de celle-ci parce qu'elle a raisonné et certes Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu bon, mais il est aussi un Dieu juste. Il doit garder sa parole, l'école qu'elle a acceptée. C'est là que certains d'entre vous, les gars de séminaire, vous avez sans doute un appel dans votre vie, mais vous courez vers quelque école biblique pour qu'on injecte cette doctrine en vous, et c'est là que vous mourrez. Restez avec Dieu et sa parole. Ils ne vous laisseront pas, ou vous ne pouvez pas faire partie de leur assemblée. Ils ne vous accepteront pas sur l'estrade. Alors, laissez-les les avoir, laissez les morts, enterrez les morts. Suivons Christ, la parole. Maintenant, durant 7 jours, il n'y aura pas de levain mélangé à l'épouse, l'Église, 7 jours. Maintenant, remarquez, puisqu'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. Le sacrifice est un type ici, l'épouse sortant du sacrifice qui est Christ. Et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit. Rappelez-vous, comme nous venons juste de voir les âges de l'Église, le messager de l'Église vient toujours juste à la fin de l'âge de l'Église précédent, toujours. La fin du pentecôtisme amène l'enlèvement de l'épouse, voyez. La fin de Luther a amené Wesley, voyez. La fin de Wesley a amené le pentecôtisme. La fin du pentecôtisme amène le message présent. Voici, il est ici même typifié tout au long de l'Écriture. Il n'y a pas une Écriture dans la Bible qui n'est pas rattachée l'une à l'autre. Voyez, tous ces types, je n'ai pas d'instruction, mais j'ai le Saint-Esprit qui me montre à travers un autre canal ces enseignements de la nature, et c'est par la parole. Ce doit être la parole qui amène sa promesse. Cher, que tu sacrifieras le soir du premier jour, même ne sera gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Or, même Luther, qui avait la vérité et qui enseignait à l'Église, le juste vivra par la foi, vous ne voulez pas vous accrocher à cela comme étant la doctrine complète à l'âge méthodiste. Que ferez-vous? Brûlez-le. De quoi était-ce le type? La dénomination qui sort de cette parole, qui est une balle, la tige, les enveloppes, doivent être brûlées. Cette partie dénominationnelle par laquelle elle est passée par ne doit pas subsister. Elle doit mourir. Ne la gardez pas jusqu'à la venue de l'autre âge. Brûlez-la. Il parle maintenant à l'épouse ici, à l'épouse seule qui sort de chaque âge. Remarquez, comme c'est beau. Le sang de l'agneau. Il forme le corps de Christ, le sacrifice. Le sang de l'agneau sur la porte. Maintenant, rappelez-vous, l'agneau a été immolé, ce qui était un type de Christ. Nous pourrions prendre beaucoup de temps, mais je n'ai pas seulement quelques minutes de plus ici. Je vais peut-être devoir m'arrêter et recommencer ce soir. Voyez, parce que nous prenons trop de temps. J'ai 20 pages là-dessus ici, des notes seulement sur ce sujet. Remarquez. Maintenant, ce point, l'agneau était Christ sous forme figurative. Ou ai-je dit ça correctement? Un type, Christ était l'agneau. Ce devait être un mâle, le premier de la vieille mère mouton ou brebis, quelle que soit la façon que vous souhaitiez de l'appeler. Il devait être son premier. Il devait être éprouvé d'abord pour voir s'il avait un défaut sur lui. Maintenant, Christ a été éprouvé, le premier agneau de la mère brebis, la Vierge Marie, et a été éprouvé par quoi? Satan contre la parole. Quand il a frappé Ève, elle est tombée. Quand il a frappé Moïse, il est tombé. Mais quand il s'est frotté à Christ et a essayé de lui citer l'Écriture de travers, il a découvert que ce n'était pas Moïse. Voyez, il a été éprouvé. Il s'est retourné, il a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, bon, ils me disent que tu fais des miracles, ils me disent que le Messie fera cela. Maintenant, si c'est le cas, tu as faim, tu n'as pas mangé, change ces pierres en pain et mange. » Il a dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, votre credo et tout, mais de quoi? De toute parole. » une partie de la parole, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est de cela que l'homme vit. Voyez, l'agneau a été éprouvé. Voir s'il allait tomber quelque part. Les pharisiens, « Oh, Rabbi, toi, le jeune prophète, nous pensons que tu es merveilleux, tu es bon. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Crois-tu cela? Oh oui, Dieu, eh bien, je le suis. Alors, hein? Tu dis qu'un seul est bon. Pourquoi ne dites-vous bon quand vous ne croyez pas que je suis Dieu? Alors, pourquoi me dites-vous bon? Qu'est-ce qui vous a fait faire ça? Qu'est-ce qui vous a inspiré à dire cela quand vous savez qu'un seul est bon et c'est Dieu? Nous savons que tu n'as point d'égard à la dignité de l'homme, ni à la parole, ni à leur position, nous le savons. Essayez, il connaissait cet hypocrite. Voyez, il a été éprouvé pour voir où il se tenait. Voyez, éprouvé de toutes les manières, éprouvé comme nous sommes éprouvés, mais il était hors de question de céder pour lui. Pas du tout. Non, monsieur, c'était le Fils de Dieu. Et l'agneau a été éprouvé et gardé pendant 14 jours. C'était deux sabbats ou deux âges. L'un est pour les Juifs qui offraient l'agneau en type, l'autre pour les gentils qui étaient le véritable agneau, et tous étaient rendus parfaits en croyant que cet agneau allait venir. Mais il a été tenté 14 ou examiné 14 jours, il était la parole. Vous pouvez l'examiner l'Ancien Testament et dire, il condamne le nouveau. Vous vous trompez, l'Ancien Testament témoigne simplement du nouveau. Un homme allait me défier il n'y a pas longtemps, il a dit, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il a dit, eh bien, il enseigne même des choses de l'Ancien Testament. Un prédicateur chrétien, pensez-y. Il a dit, l'Ancien Testament est mort et disparu. Oh non, il est seulement un maître d'école. Il montre ce qui est écrit sur la muraille, vous voyez. C'est vrai. Maintenant, vous voyez, il était éprouvé 14 jours, c'était Christ. Maintenant, remarquez. Puis, il était tué au temps du soir. Il devait être tué, l'agneau. Christ est mort au temps du soir, l'après-midi. Et puis, notez que il fut aussi, le sang devait être mis sur les linteaux, vous voyez. Le sang est la vie de l'animal. Tu mangeras la chair, mais le sang qui est là, vit, fais-le sortir. Vous voyez? Il devait être, le sang devait être mis sur le linteau de la porte de la maison dans laquelle le sacrifice avait été accepté. Gloire! Qu'est-ce que la vie? Le nom. Il a placé le nom de la personne. Allez à la porte et regardez quel est le nom sur la porte avant de sonner, voyez. Le sang était mis sur le linteau de la porte comme un type de ce que le sacrifice était à l'intérieur. Maintenant, nous allons trouver le lieu d'adoration. Juste par ici, en passant par ce sang. Notez que le sang sur la porte parlait au nom de ce qui se passait à l'intérieur. Il était là-dedans. Notre lieu d'adoration, l'agneau, c'est la parole. Nous savons cela. Maintenant, le verset 4, remarquez. Ne laissez pas de pain, ne laissez rien du sacrifice ou d'en prendre d'un âge à l'autre. Vous essayez de revenir en arrière et dire, eh bien, maintenant, nous sommes luthériens, nous voulons venir ici. Vous devez mourir à l'âge luthérien pour naître à celui de Wesley. Vous devez mourir à l'âge de Wesley pour naître dans l'âge pentecôtiste. Et vous devez mourir à l'âge pentecôtiste, ne rien laisser, y mettre le feu, parce que ça va être brûlé comme la tige duquel le blé sort. La tige, la dénomination, il faut que ce soit brûlé. Donc, n'apportez pas votre dénomination dans le nouveau message. Ceci est la parole maintenant. C'est ce qui a formé la dénomination, la tige. Elle l'a portée, c'est vrai, mais elle est parvenue ici, puis la tige est morte. C'était un porteur, la dénomination, mais la parole continue d'avancer. Oui, la parole continue d'avancer. Prenez maintenant le cinquième et sixième verset. Remarquez pas. Maintenant, prenons le cinquième et le sixième verset. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans aucune autre de ces portes que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Maintenant, souvenez-vous, dans aucune de ces portes, le Seigneur vous permet d'avoir cette illumination, vous voyez, ces portes. Mais dans le lieu que l'Éternel te choisira, l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. C'est la porte, le seul lieu, pas plusieurs de ses portes, mais Dieu a une porte. Vous dites, chaque matin, j'entre par la porte méthodiste. C'est l'Église. Chaque matin, j'entre par la porte catholique. Eh bien, le Seigneur laisse son peuple entrer et sortir par ces portes-là. Dieu a des enfants dans l'Église catholique, l'Église méthodiste, l'Église presbytérienne, toute pentecôtiste. Bien sûr, mais n'adorez pas le Seigneur dans cette porte, vous voyez. Mais le Seigneur a une certaine porte. Gloire. Il a une porte. Mais dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom, c'est là que tu sacrifieras la Pâque le soir. Quand Rebecca a-t-elle trouvé Isaac? Quand Éliézer l'a-t-elle appelé pour être l'épouse? Le soir. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Le sentier de la gloire, tu le trouveras. C'est dans l'eau, mon frère, que lui, la lumière, enseveli dans le nom du Seigneur. Jeunes et vieux, oh, repentez-vous. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. La lumière du soir brille. C'est bien vrai que Dieu et Christ sont un. Ce fut le début de cela. Maintenant, elle s'est fondue dans la lumière de l'épouse. Voyez ce que je veux dire? Je ferais mieux de terminer ici et continuer ce soir parce que je ne veux pas que vous laissiez ceci. Vous voyez? Non, non, c'est l'heure du dîner. Eh bien, j'ai trop de notes inscrites ici. Oh là là, qu'en est-il de ce soir? Est-ce que ce sera mieux? Hein? Eh bien, vous voulez essayer d'aller un peu plus loin? Très bien, allons un peu plus loin alors. Nous allons nous dépêcher avec... Ça va. Maintenant, allez dans le quoi? Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans aucune de ces portes que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Non pas d'entrer dans la maison par l'entrée qui est la porte. Est-ce exact? Dieu va mettre son nom à la porte. Et vous ne... C'est la porte qui entre dans le lieu d'adoration, le sanctuaire. Vous n'entrez pas là avec votre sacrifice par aucune de ces portes, mais par la porte que le Seigneur Dieu a choisi d'y mettre son nom. Vous voyez? Maintenant, a-t-il fait cela? Où est cette porte? Dans Jean 10, Jésus a dit, « Je suis l'entrée, la porte. » Je suis la porte de la maison de Dieu. Je suis la porte du bercail, pas de l'enclos des boucs, de la bergerie, voyez. Je suis la porte de la bergerie. Un homme peut entrer par cette porte et être en sécurité. Et maintenant, nous pourrions nous attarder longtemps là-dessus. Mais pour gagner du temps, il est la porte de cette bergerie. Maintenant, nous voulons remarquer ici, les ombres et les types sont vraiment évidents ici, mais si je prends cette page, ça va vous retenir un bout de temps. Très bien, remarquez, cela amène d'une manière parfaite Jésus-Christ. Car tout l'Ancien Testament est un type de lui, toutes les fêtes, tous les cultes et tout, et j'ai écrit ici, tout, sous ces écritures, explique-le. C'est là que je prendrai beaucoup de temps à expliquer comment toutes les fêtes. Même l'offrande de farine était un type de Christ. Prenons juste celle-là. Une fois, il y avait une école appelée l'école des ministres ou l'école des prophètes. Ils formaient ou instruisaient des prophètes. Et une fois, un véritable prophète, appelé de Dieu, est allé leur rendre visite. Ils allaient montrer au vieux prophète un peu de courtoisie, et l'un d'entre eux est sorti et a ramassé un bon nombre de ce qu'il pensait être des pois. Mais c'était des coloquintes sauvages, et ils allaient tous les nourrir de cela. Oh, combien de plats de séminaire nous avons eus, voyez? C'est vrai. Ils mijotent quelque chose, voyez? Ils ont des plats méthodistes, des plats baptistes, des plats pentecôtistes. Mais voyez, ils sont la deuxième croissance, le genre qui peut être émondé de l'arbre. Voyez, ils ne font pas partie de l'arbre originel. Ils portent des citrons, des pamplemousses et ainsi de suite. Ce ne sont pas des oranges, mais ils se vantent d'être des agrumes. Remarquez encore. Maintenant, en ceci, quand Élie est arrivé et les a regardés, il vit que les coloquintes étaient empoisonnés et allaient tuer chacun d'eux. Ils ont dit, la mort est dans le pot. Il a dit, apportez-moi une poignée de farine. Il en jeta dans le pot et dit, maintenant il est bon, mangez ce que vous voulez. Cela est passé de la mort à la vie. Et l'offrande de farine qui a été donnée, Christ, il était l'offrande de farine, et l'offrande de farine doit être broyée avec une certaine meule qui fait que chaque petite parcelle de farine est pareille. Cela montre qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est la même chose que vous devez mettre dans votre dénomination et elle va vivre. La parole, Christ est la parole, le type de tous les types, le tabernacle, le pain de proposition, tout. Le cachet brisé sur le plateau était son corps brisé, dont les Juifs ne peuvent pas encore expliquer pourquoi ils le font. Voyez, et toutes ces autres choses le typifiaient. Maintenant donc, l'ayant en vue, nous voyons maintenant toutes les dénominations et les credos laissés derrière. Car il est la pure parole immuable de Dieu qui est le pain sans levain, dans Jean 1. C'est vrai, il est le pain sans levain. Donc, si vous ajoutez ceci ou ajoutez cela, c'est d'ajouter du levain à ce qui vous a déjà été donné à l'origine. Regardez ici, ce qui tue la race aujourd'hui. Ils prennent les choses et les hybrident. Et quand vous l'hybridez, vous le tuez. Oh, il a l'air plus joli. Bien sûr, le maïs hybride, les flocons de maïs, tous les autres céréales qui sortent du maïs, le maïs hybride, grand, gros, de belles tiges longues avec de grandes oreilles, ayant l'air deux fois mieux que l'autre, mais il est mort. La science a même découvert cela. Vous voyez, ne les croisez pas, ça va vous tuer. Maintenant ici, laissez-moi vous montrer. L'autre jour, j'arrosais des fleurs dans ma cour et la dame avait des fleurs hybrides qui étaient dans un petit pot ici, la petite plate-bande à côté de la maison. Nous devons arroser ces choses au moins trois fois par semaine ou quatre, sinon elles vont mourir. Et il y avait une plante sauvage dans la cour. Il n'avait pas plu là depuis 6 mois. Tout était sec. Tout était sec. S'il pleut après 10 minutes, vous pouvez souffler la poussière. Mais cette petite plante-là, elle était plus jolie, plus lumineuse que l'hybride était avec toute cette eau. Vous omettez de l'arroser et elle va mourir. Mais d'où tire-t-elle son eau? Et une autre chose, vous devez les pulvériser tous les jours ou deux pour en garder les insectes éloignés. Sinon, les insectes vont la manger. Elle est si tendre et douce. Mais rien ne va venir sur cette plante sauvage. Non, non. Il va grimper sur elle et s'en éloigner. Elle est l'original. Voyez ce que l'hybridation a fait? C'est la même chose dans l'Église. Ils essaient de mélanger la dénomination avec la parole pour essayer de faire dire à la parole ce que la dénomination dit. Et quand vous faites cela, vous devez les pulvériser et prendre soin d'eux et leur donner des récompenses pour venir à l'école du dimanche et tout le reste. C'est vrai, quand c'est un véritable chrétien, né de nouveau, né de la parole de Dieu, il est robuste. C'est vous. Les insectes et les choses du monde ne le dérangent pas. Il est un aigle. Il s'envole au-delà de cela. Voyez, il plane dans les cieux. Voyez, c'est vrai. Rien, remarquez. Maintenant, nous devons comprendre qu'ici, la dénomination, les croyances et tout ce qui est ajouté au pain levé ne peut pas se mélanger avec le pain sans levain. Et la Bible préfigure ici dans le sacrement d'entrer dans l'adoration qu'aucun levain ne peut entrer avec vous, que Dieu recevra. Vous dites, je suis méthodiste, à cet instant même, vous mourrez. Je suis pentecôtiste, vous mourrez. Je suis de Christ, c'est vrai. Vous devez vous tenir sur quelque chose, c'est vrai. Vous devez, vous vous tenez sur quelque chose. Churchill a dit une fois, il a levé les deux doigts, il a dit, nous avons la victoire. Et l'Angleterre l'a endossé. Ils ont cru, Churchill. Et croyez-le ou non, ce matin, vous vous tenez sur quelque chose. Il n'y a qu'une seule chose sur laquelle vous pouvez vivre et vous tenir, et c'est sur Christ, la parole. C'est vrai. Remarquez, rien dans la Bible ne typifie les dénominations sauf Babylone. Babylone a été fondée par Nimrod. Et Nimrod était un renégat. Il y avait un tas de femmes là-dedans qui étaient censées être ses reines, qui étaient prophétesses. Ils pensent même que le vieux Balaam vient de cette contrée-là. Ils avaient des racines et tout. Ils adoraient, vous savez, beaucoup d'entre vous, les érudits qui avaient lu les deux Babylones d'Islope et ainsi de suite, et l'histoire de l'Église. Et comment ont-ils fait? Ils prenaient des femmes pour faire ceci, et les femmes, une déesse et tout, et c'était une religion forcée. Tout le monde, toutes les villes autour de Babylone étaient obligées de venir à Babylone pour adorer à la tour sous Nimrod. Vous voyez? C'est vrai. Ils étaient forcés de le faire, le débattre. Voilà d'où vient la confusion. C'est exactement ce que l'Église aujourd'hui, si vous n'allez pas à l'école du dimanche, si vous ne faites pas ceci, qu'on doit vous engager pour faire ceci et faire cela, vous êtes hors du portrait. C'est là-bas, à Tucson, qui est à l'écoute ce matin. Je me demandais une fois, j'ai toujours contraint les gens à aller à l'Église, peu importe où vous allez. Et j'ai vu les gens, en quelque sorte, se retirer et aller dans une autre direction. Et je pensais, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé voir certains d'entre eux. Le premier jour que vous êtes là, ils vont vous approcher. Joignez-vous à notre Église. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas le bienvenu. Voyez? Voyez? C'est une chose forcée. On vous y contraint, voyez? Et c'est Babylone. Mais en Christ, vous y venez par élection, non pas par la force. Votre cœur vous attire en lui. Dieu n'a pas mis son nom là, dans Babylone. De même, maintenant, il ne peut pas mettre son nom dans Babylone. Les églises, oh, ils mettent son nom là-dedans, mais lui, il ne l'a jamais fait. Non. Vous dites, eh bien, maintenant, Frère Branham, attendez, attendez. Restez assis juste une minute. Vous m'avez demandé de rester un peu plus longtemps, d'accord? Maintenant, remarquez, ils mettent son nom là-dedans, mais lui ne l'a pas fait. Maintenant, il a dit, le lieu où je vais vous rencontrer et recevoir votre sacrifice est là où j'ai choisi de mettre mon nom. Venez à cette porte, la porte où j'ai choisi de mettre mon nom. C'est là que vous viendrez. Eh bien, ils ont affiché, c'est ici l'Église de Christ. S'il y a quelque chose qui est en erreur dans cette déclaration, ils ont oublié un mot. Anti. Tout ce qu'il a enseigné, ils sont en désaccord avec cela, des pharisiens modernes. Mais nous devons trouver où il a mis son nom, car c'est sa seule porte pourvue. Amen. Gloire. Regardez, où a-t-il mis son nom? Dans son fils. Oh, vous dites maintenant, attendez une minute, Frère Branham. C'était le fils, pas le père. Le fils prend toujours le nom de son père, dans tous les cas. Je suis venu sur cette terre dans le nom de Branham, parce que le nom de mon père était Branham. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon père, et vous ne me recevez pas. Vous voulez l'Écriture à ce sujet? Jean 5, 43, vous voyez? Je suis venu au nom de mon père, et vous ne me recevez pas. Alors, le Père a mis son propre nom, qui est Jésus, dans le Fils. Et il est le chemin, il est la porte, il est la maison. Il est là où Dieu a choisi de mettre son nom. Dieu n'a jamais mis son nom en moi. Il ne l'a jamais mis dans l'Église, il ne l'a jamais mis dans la méthodiste, le baptiste, le catholique, mais il l'a mis en Christ. Emmanuel, le oin. Et le nom est dans la parole parce qu'il est la parole. Amen. Qu'est-il alors? La parole interprétée est la manifestation du nom de Dieu. Ce n'est pas étonnant. La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Qui je suis? et sur cette pierre je bâtirai mon lieu d'adoration, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Ô Église vivante de Dieu, restez sur le fondement ferme de Jésus-Christ seulement. Vous pouvez chanter le chant, mais si vous n'êtes pas fondé sur Christ, la parole, vous êtes chancelant sur des sables mouvants. Mais sur ce rocher, Christ, ma parole, il a bâti le message luthérien. Ils en ont fait une dénomination. Il produisait bien et ensuite il a produit la partie de la jambe, la méthodiste, et ainsi de suite. C'est là qu'il a bâti son Église sur sa parole. Maintenant, il n'est pas entièrement le pied ou la cuisse, il est un corps. Et c'est maintenant la partie qui coiffe. Avez-vous remarqué dans les pyramides? Ce qui, je ne fais pas une religion de la pyramide maintenant. Mais la première Bible qui a été écrite a été dans le ciel. Avez-vous remarqué? Cela commence avec la Vierge, le premier signe du zodiaque. Le dernier signe est Léo, le lion. Il est venu premièrement par la Vierge, il vient ensuite comme le lion de la tribu de Juda, juste avant un âge de cancer, de poisson croisé, tout le reste des âges. Si nous avions le temps de voir tout ça, comme nous l'avons au tabernacle. Et la pyramide part de la fondation et monte jusque dans la chambre du roi. Et juste avant d'atteindre la septième paroi, il y a là une petite plateforme d'introduction où un messager se présente pour vous conduire au roi. Le messager Jean-Baptiste qui a conduit au roi. Mais la pierre de fête a été rejetée. Ils ne savent pas, la pierre de scone ou quoi qu'elle soit, ils ne savent pas où elle est, parce que c'est une pierre rejetée. Mais c'est la pierre qui coiffe le tout, qui en fait la pyramide. À travers les sept âges de l'Église entière, ajoutez la grâce, ajoutez ceci, ajoutez cela. Il y a sept choses à ajouter, dont la dernière est Christ. Ajoutez ceci à votre charité, ajoutez la grâce à votre grâce, ajoutez ceci, jusqu'à ce que vous arriviez à Christ, qui est la pierre de fête. Je suis la porte. Maintenant, un fils vient toujours au nom de son Père. Tout fils vient au nom de son Père. Et Jésus a dit, « Je suis venu au nom de mon Père. » Alors, quel est le nom du Père? Quel est le nom du Fils? Puis il a dit, « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. » Oui, il est venu sous la forme du Saint-Esprit, dont le nom est Jésus. C'était la raison pour laquelle il adorait. Oh, Jésus, voyez? Voyez, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Maintenant, souvenez-vous, il a également ajouté ceci et il nous met en garde. Un autre viendra. Une dénomination, un credo. Ils viendront en leur nom et vous les recevrez. Vous ne me recevrez pas. La parole confirmée est prouvée devant vous. Comme il avait raison, là, c'est pareil aujourd'hui. Ne manquez pas cela. Vous, partout à travers cette nation, un autre viendra, une église, et vous croirez cela parce que vous faites ce qu'il vous plaît. Ne la confirmerai pas. Je ne la confirmerai pas. Il n'a jamais, en aucun temps, jamais confirmé quoi que ce soit dans une église en dehors du message qui était donné. Luther, la justification. Wesley, la sanctification. Pentecôtiste, la restauration des dons. Ensuite, aussitôt qu'ils en font une dénomination, cela meurt. Sondez les Écritures. Mais il a dit, « Le lieu que je choisirai pour y mettre mon nom. » Et le nom était Jésus. Et Jésus est la parole. Jean 1. Est-ce vrai? C'est le lieu d'adoration en Christ, la parole. Je suis venu au nom de mon Père. Et le prophète a dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est Matthieu 1, 23. Si vous voulez l'inscrire, le noter, Jésus, Jéhovah, le Sauveur. Maintenant, le verset 5 montre qu'il est la porte. Maintenant, beaucoup d'entre eux, d'autres preuves invisibles, cette porte et le nom et le lieu peuvent prouver qu'il n'y a qu'un seul endroit où Dieu rencontre l'adoration de l'homme, et c'est quand il est en Christ. Bon, maintenant la question est, comment entrons-nous en lui? Maintenant, ceci peut pincer un peu, mais vous savez, comme quand on prend des médicaments, ça ne nous rend pas malade, ça ne fait aucun bien, voyez? Maintenant, les luthériens voulaient entrer d'une manière en se joignant à l'Église luthérienne. Le méthodiste voulait entrer par l'écrit. Les pentecôtistes voulaient entrer en parlant en langue. Ce n'est pas encore ça, voyez? Non, ce sont des dons, ainsi de suite. Mais 1 Corinthiens 12 dit, « Par un seul esprit, l'Esprit de Dieu qui est celui qui donne la vie à la parole, la semence, pour confirmer cette semence pour cette saison. » Voyez? Voici la semence de l'âge méthodiste qui reposait là. Il fallait le Saint-Esprit pour faire en sorte que cette semence vienne à la vie et pure pour purifier l'Église par la sanctification. Luther ne prêchait pas cela parce qu'il ne le savait pas. Les pentecôtistes voulaient parler en langue pour la restauration des dons. Chacun déclarait, c'est ça, voyez? Mais par un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Et ce corps est une famille, la famille de Dieu. C'est la maison de Dieu, et la maison de Dieu est le nom de Jésus-Christ. Le nom du Seigneur est une tour puissante, les justes s'y réfugient et sont en sécurité. Maintenant, comment allez-vous y entrer avec un titre? Comment votre chèque va-t-il être accepté en disant « payé à l'ordre du révérend docteur ministre » Voyez? Vous pouvez être un pasteur, docteur, ministre. Mais le nom du Seigneur est Jésus-Christ, voyez? J'ai choisi de mettre mon nom à la porte de la maison de mon adoration, car ma famille sera rassemblée là, sous le sang, comme il en était en Égypte. Tout ce qui était à l'extérieur est mort. Et là, il n'y avait pas de pain levé, il n'y avait aucun mélange dénominationnel en elle, nulle part. Ma maison, mes enfants, nés de mes gènes. Amen. Gloire à Dieu. Mes gènes sont en eux. Je mets mes paroles en eux. Je vais les écrire sur les tables de leur cœur. C'est ma famille, la famille du corps de Jésus-Christ, la famille. C'est par cette porte que vous entrez, pas méthodiste, baptiste ou pentecôtiste, mais par la porte où j'ai mis mon nom. Ce n'est pas méthodiste, le nom de Dieu n'est pas méthodiste, le nom de Dieu n'est pas pentecôtiste, le nom de Dieu n'est pas baptiste, le nom de Dieu n'est pas catholique. Restez en dehors de ces portes, alors, voyez? Mais dans le lieu où j'ai choisi de mettre mon nom, maintenant, il n'y a pas un autre lieu dans la Bible où Dieu ait mis son nom seulement en Jésus-Christ, car il est le Fils de Dieu prenant le nom de Dieu et le nom humain de Dieu. Il n'y a aucun nom sous le ciel, aucun autre nom par lequel vous deviez être sauvé, peu importe méthodiste, baptiste, presbytérien, catéchiste ou quoi que ce soit que vous vouliez faire. C'est seulement au nom de Jésus-Christ que tout genou fléchira et que toute langue confessera qu'il est Seigneur. C'est comme ça que vous entrez. Et si vous êtes simplement baptisé dans l'eau comme il faut, puis nier la parole, alors vous êtes illégitime. Votre naissance n'était pas correcte. Vous prétendiez croire en lui alors que vous le niez. Comment pourrais-je renier ma famille? Comment pourrais-je nier que Charles Branham est mon père? Un test sanguin sur la porte le montre. Mon action et la confirmation de la parole de Dieu dans ma vie montrent si je suis un enfant de Dieu ou pas. Maintenant, il n'y a que le lieu de Dieu. Voyez? Le seul lieu où Dieu recevra votre sacrifice, peu importe la sincérité que vous avez, c'est en Christ. Et rappelez-vous, vous dites, « Eh bien, je croyais que je venais aussi. » Rappelez-vous, la Bible dit, vous dites, « Eh bien, la Bible a dit, « Quiconque croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu est sauvé, sera sauvé. » Il dit cela, mais rappelez-vous qu'il est aussi écrit, il est aussi écrit. Nul ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous voyez? Vous pourriez dire « il l'est », mais il ne l'est pas avant que le Saint-Esprit même qui donne la vie à la parole le prouve en confirmant que tu es le Fils de Dieu. C'est l'Écriture. Le lieu que j'ai choisi pour y mettre mon nom, vous n'adorerez pas dans aucune autre porte, sauf dans la porte où j'ai mis mon nom. Alors je vous accueillerai. Vous êtes dans ma famille. Eh bien, la famille de Dieu obéit à l'ordre du Père de la famille. Et il est le Prince de la paix, le Dieu puissant, le Père éternel. Son empire et son règne n'auront pas de fin. Le gouvernement reposera sur ses épaules. Et lui étant gouverneur, roi, Emmanuel, le premier, le dernier, prince de la paix, le Dieu puissant, Père éternel, tous ses enfants obéissent à chaque parole de l'ordre parce qu'ils sont une partie de lui. Nous vivons dans notre maison comme les Branham vivent. Les Jones vivent dans leur maison comme les Jones vivent. Et dans la maison de Dieu, nous vivons par la parole de Dieu et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et n'importe qui d'autre, un imposteur, nous ne l'écouterons pas. Voyez? Vous mangerez du pain sans levain pendant tous les âges de l'Église, comme je vous le donne. Mais n'essayez pas de revenir en arrière et d'y injecter cela parce qu'il est devenu une tige. Vous prendrez les os et ce qui reste du sacrifice et vous le brûlerez. Disparu, l'âge de l'Église est mort, il a continué, nous sommes dans un autre maintenant. Amen. Le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Oh là là, 1 Corinthiens 12, remarquez, Éphésiens 4, 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au prochain réveil. Jusqu'au jour de votre rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Maintenant, remarquez, appliquons cela à notre leçon sur les Écritures. Ensuite, nous ferons mieux de terminer. Je pense que je fatigue les gens, pas vous. Les gens se lèvent et rentrent à la maison, voyez-vous, car ils doivent préparer le dîner. Et si quelqu'un d'autre veut partir, il ne s'attendait pas à venir ici pour écouter toute la journée, voyez. Mais écoutez, Ben, je devrais te parler un peu. Que Dieu te bénisse. Merci, frère Bren. Je t'aime, frère Ben. Si vous saviez ce que ce garçon a souffert pour nous dans cette guerre, il a été criblé de balles, les explosions et toutes ces sortes de choses. Il en a vu de toutes les couleurs, mais Dieu l'a béni. Il est resté fidèle, sa femme l'a quitté, s'est enfui et remarié, a pris ses enfants. Oh là là, je ne peux tout simplement pas y penser, mais de toute façon, que Dieu te bénisse, Ben. Il est ici présent, rempli d'éclats d'obus, appuyé sur ses nerfs et tout le reste. C'est pourquoi vous devez connaître le contexte des choses. Dieu bénisse ce garçon. Oui. Par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Remarquez. Maintenant, cela peut pincer un peu, mais remarquez. Ne vous fâchez pas contre moi. Rappelez-vous simplement. Quand Israël a autrefois regardé sur cette porte, avec ce sang sur la porte, le nom, le sang, la vie, il est entré sous le sang et ils ne sont jamais ressortis à nouveau jusqu'à ce qu'ils sortent d'Égypte. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes entré et par lequel vous ne sortirez plus jusqu'au jour de votre rédemption. Voyez? Vous savez, la Bible a toujours raison. Elle a mis des paroles là-dedans. Vous devez les placer là où ils vont pour lui faire dire, pour voir l'image complète de la rédemption, voyez? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Jusqu'à votre rédemption, vous êtes scellés à l'intérieur. Vous êtes sous le sang, vous n'en sortez plus. Alors, qui êtes-vous? Un fils de Dieu, dans la famille de Dieu, scellé à l'intérieur par le Saint-Esprit. Le diable ne pourrait même pas vous atteindre s'il le devait. Car vous êtes mort. Votre ancien mari est mort et vous êtes enseveli et votre vie est cachée en Dieu par le Christ et scellée par le Saint-Esprit. Comment peut-il vous atteindre? Comment pouvez-vous en sortir? Vous êtes là, gloire! Maintenant, je vais laisser cela de côté juste assez pour que vous sachiez ce dont je parle. Puis vous êtes une nouvelle création, pas de la dénomination, mais de la parole. Vous êtes une création de la parole parce que la pierre de fondation a été posée en vous avant la fondation du monde, prédestinée à être des fils et des filles de Dieu. Et là-dessus viennent pierre sur pierre dans chaque âge. Pour confirmer cette parole qui est à venir exactement comme Jésus l'a fait dans son âge, lui qui est la pierre de fait de tout cela, tous les âges se trouvent en lui. Moïse était en Jésus. David était en Jésus. Les prophètes étaient en Jésus, n'est-ce pas vrai? Considérez Joseph vendu pour environ 30 pièces d'argent, jeté dans une fosse, passé pour mort, il en est sorti, il est allé à la droite de Pharaon. Regardez exactement, Jésus était, Joseph était en Jésus. Et quand il est venu, il était la plénitude des rois, des prophètes. Alléluia! La divinité habitait corporellement en lui. Il est venu pour racheter de là une épouse, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre qui dit à Satan que lorsqu'il dit « Les jours des miracles sont passés, ces choses dont tu parles n'existent pas, arrière de moi, Satan. » Voyez? Voyez un chef-d'œuvre qui se tient en garde. Un jour, la pierre de fête reviendra, la tête de tout cela, et elle va accueillir l'épouse en elle. C'est pourquoi la femme a été prise de l'homme, une partie de l'homme. Tous les gènes de l'homme sont dans la femme. C'est ce qui fait la femme, et c'est la façon dont la parole de Dieu est dans l'Église. C'est ce qui fait de l'Église l'épouse. Pas une dénomination, c'est du diable, chacune d'elles. Je ne dis pas cela des gens dans celle-ci. Ce sont de pauvres gens séduits, comme Jésus a dit, des aveugles qui conduisent les aveugles, et ils ne pouvaient pas les appeler à sortir. Ils ont dit, « Eh bien, tu es né dans la fornication. Qui t'a dit de venir ici? Quelle école, quel séminaire t'a reconnu? » Ils ont dit, nous avons Moïse, nous sommes. Il a dit, si vous aviez connu Moïse, vous m'auriez connu. Parce que Moïse a écrit à son sujet dans ses quatre livres. Le Seigneur, ton Dieu, suscitera un dispensateur de la parole, un prophète semblable à moi, et celui qui n'écoutera pas ce prophète sera retranché du milieu du peuple. C'est tout, c'est ce qu'il y en est. Et qui est-elle? La parole. Et c'est quoi? Ne laissez aucun levain dans là. Ne mettez simplement aucun levain là-dedans. N'ajoutez aucun credo, aucune dénomination, car elle sera souillée exactement à ce moment-là. Votre sacrifice sera ruiné. Dépêchons-nous maintenant, rapidement, pour que vous puissiez aller manger. Remarquez, maintenant donc, vous êtes un fils de Dieu dans la maison de Dieu. Vous êtes une partie de l'économie de Dieu. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car ils sont morts au monde, vivant en lui et vivant dans le jour présent, accomplissant la parole pour laquelle Dieu les a suscités, les a prédestinés, en plaçant leur nom dans ce livre de l'épouse. Et lorsque les eaux arrosent cette semence qui est dans leur cœur, elle l'a fait croître jusqu'à être l'épouse de Christ. Oh là là, c'est parfait au possible. Dans tous les âges, il en a été ici. Les luthériens représentent la justification. Les pieds l'ont fait pousser comme ça. Wesley représente la sanctification. Les pentecôtistes représentent les bras, les œuvres et les actes, et ainsi de suite. Ils devaient être calvinistes, ou ils devaient être arminiens, ou ils devaient être légalistes. Mais maintenant, nous arrivons à la tête. La pierre de fête. Grâce, grâce, a crié la pierre de fête. La pierre de fête a crié quoi? Grâce, grâce. Passer de la mort et des credos à la parole vivante du Dieu vivant. Le seul plan pourvu par Dieu pour son âge, ses fils dans l'âge parole vivifié par l'Esprit comme une étincelle qui est allumée par quelque chose pour la rendre vivante et assis maintenant dans les lieux célestes au temps présent, déjà vivante et assujettie à toutes les promesses de la parole. Alors, qu'est-ce que cela fait? Vous êtes une partie du gène de Dieu, une partie de la parole. D'autres sont une partie de la parole de Dieu, assis ensemble, manifestant le corps entier de Christ parce qu'il n'y a pas de levain parmi vous. Voyez de quoi il parle, frère Brown? Aucun levain parmi vous, seulement la parole, assis dans les lieux célestes, à l'intérieur de la porte où il a mis son nom, Jésus-Christ. Aucun levain parmi vous. Cela apporte la plénitude entière de la divinité corporellement parmi vous. Cela ne pouvait pas arriver dans l'âge de Luther, ça ne pouvait pas arriver dans l'âge de Wesley, ça ne pouvait pas arriver dans l'âge pentecôtiste, mais dans le jour où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé, qui aura ramené l'Église ensemble avec la divinité entière, Dieu parmi son peuple, montrant les mêmes signes visibles, se manifeste comme il l'a fait au début, quand il a été manifesté sur la terre, sous la forme d'un Dieu prophète. Brrr. Gloire. Promis par Malachi 4, promis par le reste des Écritures. À quel endroit adorez-vous? La maison de Dieu, assis au temps présent. Maintenant, rapidement, regardons simplement très vite maintenant et nous partirons dans environ 10 minutes. Nous serons partis, le Seigneur voulant. Maintenant, considérons-en quelques-uns qui ont été vivifiés dans cette maison de Dieu, dans leur âge. Enoch. Dans 10 minutes, nous allons partir, si vous pouvez me supporter encore jusque-là. Regardez, Enoch était la parole vivante de Dieu de son âge. Il était un prophète. Un prophète est le réflecteur de Dieu. Combien savent cela? Le réflecteur ne se reflète pas lui-même. Le réflecteur n'est pas le reflet. Il doit y avoir quelque chose qui frappe le réflecteur. Réflecteur pour le faire réfléchir. Ainsi, un prophète est un vase choisi par Dieu qui ne peut refléter rien du tout, mais il est en ligne directe avec cette réflexion. Dieu, afin de refléter l'image de Christ, la parole. Voyez, rien d'autre ne peut le faire. Vous êtes un réflecteur. C'est la raison pour laquelle le prophète devait aller avaler le livre. C'est la raison pour laquelle il a dû avaler le rouleau. Il devait refléter cette parole pour cet âge. Vous avez saisi? Remarquez Enoch, le réflecteur parfait de Dieu en type. Lorsque Dieu en a eu fini avec lui, il l'a enlevé, il l'a pris. La mécanique qu'il avait réfléchie est devenue dynamique avec l'esprit et l'a enlevé. En fut de même du temps d'Élie. Élie, même jusque dans ses eaux, où cette réflexion, le réflecteur de Dieu dans son corps, la parole de Dieu était rendue manifeste. Ils ont jeté un homme mort, déçu, et il est revenu à la vie. Nous sommes sa chair et ses os, or aussi longtemps que nous sommes l'épouse de Christ. Croyez-vous cela? Bien, il est mort pour nous, et nous sommes morts à nous-mêmes, et nous sommes ensevelis en son nom, afin que nous ne soyons plus du monde, mais en lui, de sorte qu'également la famille dans le ciel porte le nom de Jésus-Christ. C'est Éphésiens 1, 21. Car aussi bien pour le ciel, la famille dans le ciel, quel est le nom de la famille dans le ciel? Jésus. Quel est le nom de la famille sur la terre? Eh bien, c'est la maison de Dieu, là où se trouve le Saint, n'est-ce pas? C'est la porte, l'entrée, c'est l'endroit où il a mis son nom et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. C'est la parole qui se reflète et qui éclaire l'âge dans lequel vous vivez. C'est ce qu'il est. C'est ce que Moïse était. C'est ce que Jacob était. C'est ce que tous les autres étaient. Ils ont déclenché cette parole de Dieu, le réflecteur pour lequel Dieu se réfléchissait lui-même pour en arriver à cette image parfaite de Dieu, Jésus-Christ, le chef-d'œuvre de Dieu. Il a été frappé pour qu'il puisse prendre les autres comme épouse, ceux qui le reflètent. Moïse était en lui. Josué était en lui. Et si vous êtes en lui, vous étiez en lui avant la fondation du monde, la famille de Dieu. Vous avez souffert avec lui. Vous êtes mort avec lui. Vous êtes allé à la croix avec lui. Vous êtes ressuscité avec lui. Et maintenant, vous êtes encore avec lui, assis dans les lieux célestes, reflétant le message de l'âge au monde entier, la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Mais si elle est cachée par un panier, une lampe dénominationnelle, comment vont-ils faire pour la voir? Par vos traditions, vous rendez la lumière sans effet. En essayant, vous, les dénominations, vous essayez de garder la lumière loin de votre église. Vous ne voulez pas entrer et vous ne les laisserez pas entrer non plus. Amen. Arrêtons-nous maintenant. Oh là là, j'en ai trop ici. Nous pourrions continuer. Oh là là, il nous reste 5 minutes. Voyez, qui est la porte? Où est-ce que Dieu a mis son nom? En Jésus. Comment entrez-vous en son nom? Comment y entrez-vous? En y étant baptisé. Comment? Par l'eau, par l'Esprit. Un Seigneur, une foi, un baptême. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau vous met juste en communion avec les gens, car vous avez reconnu que vous avez accepté Christ. C'est la vérité, mais c'est le baptême de l'Esprit. Je peux invoquer le nom de Jésus sur vous et vous baptiser, cela ne fait pas qu'il en est ainsi, mais une fois que le véritable Saint-Esprit, la parole authentique vient, est en vous, la parole Jésus, alors là, frère, le message n'est plus un secret pour vous à ce moment-là. Vous le connaissez, frère, tout est éclairé devant vous. Alléluia! Dieu soit loué! Amen! Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut. Cher Dieu, je prie afin que tu guérisses ces gens, Seigneur, et rétablisses chacun d'entre eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, l'amour! Oh! Depuis que par la foi j'ai vu ce flot, que tes plaies m'ont fourni à partir de ce chef-d'œuvre, l'amour rédempteur a été mon thème. Comment pouvez-vous? Dieu est amour. Celui qui aime est de Dieu. L'amour divin, saint, pas l'amour sale, propre, pur, l'amour saint, l'amour de Dieu, la parole. Je cache ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oh là là, c'était le cri de David, n'est-il pas merveilleux? Ne l'aimez-vous pas? Maintenant, il y a une voie pure, sainte, une seule lieu de rencontre où Dieu vous rencontrera, non pas parce que vous dites, « Dieu, maintenant, je suis un bon méthodiste, je suis un bon baptiste, je suis un bon pentecôtiste. » Non, c'est parce que vous êtes en Jésus, la parole, la partie de la parole qui est en train de se manifester aujourd'hui, le message de ce jour, pas celui de Luther, celui de Wesley, pentecôtiste, mais votre Jésus, le reflet qui est venu en ceci, vous ne pouvez pas retourner à cela. Ce serait d'ajouter du levain au pain sacré qui dit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu dans sa saison. Oh, viens, Seigneur Jésus, la grande pierre de fête. Regardez là-bas la poussière de ceux qui sont morts martyrisés, des luthériens. Regardez ces méthodistes, ces pentecôtistes et ainsi de suite qui poussent maintenant cette souche réelle qui sort. Vous, les assemblées de Dieu, vous êtes allés vous organiser dans la chose même que Dieu vous en a fait sortir. Vous y retournez comme une truie à son bourbier. Vous, les unitaires, unis, l'ancien JC des assemblées pentecôtistes de Jésus-Christ, une pour les gens de couleur, et vous vous êtes séparés à cause de la ségrégation. Vous qui avez fait cela, et puis vous vous êtes unis et l'avez appelé unis. Ensuite, vous vous êtes organisés, et vous vous êtes disputés avec les assemblées, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Si le vomissement a rendu le chien malade la première fois, ça ne le rendra-t-il pas malade encore? Changez votre alimentation de votre dénomination à la parole, et vivez avec Christ. Honte à vous! J'ai un Père dans l'au-delà. J'ai un Père dans l'au-delà. J'ai un Père dans l'au-delà. Sur l'autre rivage. Un beau jour, mes yeux le verront. Un beau jour, mes yeux le verront. Un beau jour, mes yeux le verront. Sur l'autre rivage. Oh, ce sera une grande réunion. Ce sera la parole va avec la parole, réunion. Lorsque l'épouse monte, parole sur parole, grande réunion sur l'autre rivage. Oh, ce grand jour peut être demain. Ce grand jour peut être demain. Ce grand jour peut être demain. Sur l'autre rivage. Vous dites, vous en êtes sûr, frère Branham? Oui, monsieur. Lorsque les luthériens de cet âge-là, les Wesleyens de leur âge, les pentecôtistes dans leur âge, les vrais, pas les dénominationnels, les pentecôtistes, ceux qui ont ajouté du levain, leurs dénominations sont morts. Mais cette véritable parole continue d'avancer. Vous voyez, tout comme Jésus a dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, moi en vous et vous en moi. C'est entièrement la parole. Oh, ce sera une grande rue quand ses fils se rassemblent à la porte. Quand grande réunion sur l'autre rivage. Maintenant, Église, nous enseignons maintenant. Mais rappelez-vous, quand vous quittez ici, vous commencez à sortir de la balle. Maintenant, vous allez dans le grain. Vous demeurez dans la présence du Fils. N'ajoutez rien à ce que j'ai dit. Ne retranchez rien de ce que j'ai dit, parce que je dis la vérité pour autant que je le sache, comme le Père me la donne, voyez. N'ajoutez rien, dites ce que j'ai dit. La chose est que dites seulement aux gens de chercher le Seigneur Jésus, et puis vous-même demeurez dans sa présence, exprimez-lui simplement votre amour. Ô Seigneur Jésus, Fils de Dieu, je t'aime, adoucis mon cœur, Seigneur. Enlève toute la souillure et l'amour du monde et laisse-moi vivre dans la sainteté, dans ce monde présent devant toi. Inclinons la tête pour la prière. Maintenant, voyons, avons-nous choisi quelqu'un pour terminer la réunion dans la prière? Bon, je vais le faire. Alors, soyez vraiment révérencieux. Cher Dieu, nous te remercions de ce que nous ayons eu notre repas spirituel. Nous te remercions, Seigneur, parce que la vitamine de la parole fait grandir des fils de Dieu. Cela n'a d'effet sur aucun autre type de caractère, seulement les fils et les filles de Dieu. Alors, nous te remercions donc pour cela et nous prions, Dieu, afin que nous en bénéficions et non seulement t'en remercier, nous t'en remercions, mais nous puissions nous utiliser la force pour essayer de, par amour, persuader les gens de croire en notre Dieu. Le rebelle, les pécheurs, les femmes, les hommes, les garçons, les filles dans cet âge. Voyant, Seigneur, que l'état mental de l'âge névrosé dans lequel les gens vivent, cela leur fait perdre l'esprit pour accomplir exactement ce que l'Écriture avait dit et promis, les grandes choses hideuses qui viendraient sur la terre, comme des sauterelles pour hanter les femmes qui coupent leurs cheveux. Elles auront les cheveux longs comme une femme. Et différentes scènes hideuses qu'ils seront en mesure de voir, Seigneur, dans cet état mental, dans ces conditions illusionnées dans lesquelles ils seront, criant aux rochers et aux montagnes. Les femmes qui prennent soin des chiens et des chats comme leurs propres enfants et n'élèvent pas d'enfants pour t'honorer. Celles à qui tu as donné des enfants et qui les ont conçus, qui les laissent vivre dans la rue, abandonnés à leur propre sort. Ce n'est pas étonnant que tu aies dit, Seigneur, quand tu allais à la croix, ils commenceront à crier pour que les rochers et les montagnes tombent sur eux. Nous voyons toutes les autres choses se mettre en mouvement maintenant. Nous voyons l'Écriture être confirmée, prouvée. Et tout comme nous voyons cela, Seigneur, toi, avec nos propres yeux étant manifestés, un jour il y aura un enlèvement et nous verrons la manifestation de cette parole, car le Fils de l'homme viendra dans une nuée de gloire avec ses saints anges avec lui, et nous serons enlevés à sa rencontre dans les airs. Ce sera alors, maintenant nous en avons entendu parler, mais alors nous le verrons de nos propres yeux. Puissions-nous être trouvés en lui, Seigneur, le seul lieu pourvu, et il est le sacrifice. Nous lui apportons ce que nous avons entendu parler, Jésus-Christ, dans la maison de Dieu, par le baptême du Saint-Esprit, par le nom de Jésus-Christ. Et là, notre sacrifice est accepté et nous sommes introduits dans la famille, car étant encore égarés dans le monde, nous étions prédestinés, fils et filles de Dieu, avant la fondation du monde. Merci pour cela, Père. Oh, comment est-ce que quelqu'un pourrait rejeter quelque chose comme ça alors qu'ils ont trouvé la vérité, que Dieu les avait choisis avant le monde? Il y en avait des millions qui étaient perdus le jour où j'ai été sauvé. Oh, agneau mourant, comment pourrais-je te remercier? Comment mon cœur peut-il être assez révérencieux devant toi? Aide-moi, cher Dieu, à vivre fidèlement. Aide mon peuple à vivre fidèlement. Je prie pour eux, Seigneur, chacun d'eux, que tu puisses, Dieu, en quelque sorte. Je ne sais pas comment demander, Seigneur, et je me demande peut-être pas la bonne manière, mais pardonne mon ignorance, Seigneur, et regarde seulement mon cœur. Je prie pour qu'aucun d'entre eux ne soit perdu, et aucun d'entre eux, Père, je les réclame chacun d'eux pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je l'aime. Et si vous l'aimez, vous vous aimez les uns les autres, serrez-vous la main les uns les autres. Et à qui mon salut sur le bois du calvaire.